vous allez entendre un message de William Branham intitulé « Questions et réponses » prêché le 12 janvier 1961 à Jeffersonville, Indiana, USA, et tiré du livre « Conduite, ordre et doctrine ». J'ai apporté ma concordance, je peux la passer à Léo ici, ou quelqu'un d'autre assis tout près qui pourrait m'aider s'il le veut et si nous en avons le besoin. Maintenant, cette dame qui est là, qui est son mari? Oui, bien, si vous le voulez, que votre femme vienne s'asseoir avec vous. Il n'y a rien de dit parmi les frères qui ne peut être dit aussi aux sœurs. C'est très bien. Maintenant, vous êtes plus que bienvenue de la voir. Est-ce qu'elle a assez chaud là-bas, Doc? Bien, c'est très bien, mais elle va se sentir un peu seule. Quelquefois, la raison pour laquelle je dis « homme », c'est parce qu'il y a des questions qui sont demandées entre hommes et qui ne peuvent être répondues en présence des dames. Mais il n'y a rien ici qui ne puisse être répondu en présence des dames. Il n'y a rien qui ne puisse être répondu dans l'Église, car cela est relié en plus grande partie aux ministres et ainsi de suite, et que c'est sur ce qu'est leur commission et ce qu'ils doivent faire. Maintenant, je crois que ceci est enregistré, je ne suis pas certain. Frère Gaud, est-ce que c'est enregistré? C'est bien. Notre raison pour faire cela est de découvrir, frère, quel est le principal, ce qui est dans la pensée de l'homme, ce qui nous concerne. Nous devons tous parler de la même chose. Maintenant, par exemple, quelqu'un entre, il va vers un frère de l'église ici. Quel est votre prénom, frère? Willard, frère. Maintenant, il y a deux Willard ici. Je vais devoir vous donner autre chose. Quel est votre nom de famille maintenant? Chris. L'église de frère Chris. Et frère Chris va dire une certaine chose. Alors, quelqu'un va à Sellersburg voir à l'église de frère Ruddle. Et frère Ruddle dirait la chose autrement. Ils iraient à l'église de frère Juni et ce serait complètement différent. Ils viendraient au tabernacle et ce serait encore différent, voyez-vous. Cela embrouille les gens. Maintenant, comme quelqu'un disait, « Oh, je ne croirais pas, vous n'avez pas réellement besoin de recevoir le Saint-Esprit. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. » Disons par exemple que frère Chris a dit cela. Et alors, vous venez voir frère Ruddle et il dirait, « Oui, c'est essentiel. » Et vous allez voir frère Juni et il dit, « Cela ne fait pas tellement de différence. » Voyez-vous, si nous pouvions nous réunir, même je souhaiterais que nous, les ministres dans Jeffersonville, dans cette région, puissions nous réunir et que nous puissions dire la même chose. Et c'est là que très souvent, les diacres et les administrateurs, ils doivent découvrir ce qu'est leur devoir. Et je vois que le trésorier et le concierge de l'église sont ici ce soir. Alors nous allons voir ce qu'est leur devoir. Ces questions qui sont posées ici pourraient être posées et répondues n'importe où. Ce ne sont que des questions simples, comme le travail des administrateurs. Maintenant, si ce n'est que le travail ordinaire, je crois que c'est défini ici sur le tableau. Les devoirs d'un administrateur est ce qu'il doit faire. Et il y en a une ici, et je crois que c'est bien, j'y répondrai dans un moment, si Dieu veut qu'on y arrive. C'est, dans un moment de crise, que doit faire un diacre? Que doit-il faire au moment d'une certaine circonstance? Comment doit-il réagir? Voyez-vous? Ou que doit faire un administrateur? Que doit faire un pasteur? Quelque chose comme cela, dans un moment de crise. Nous savons ce qu'est la routine régulière. Mais qu'en est-il si c'est en dehors de la routine? Voyez, que doivent-ils faire? Et nous devons savoir exactement quoi faire. C'est comme entraîner une armée. Chacun connaît sa place. Maintenant, comme groupe, nous pourrions rester ici la moitié de la nuit, nous savons cela, je ne crois pas que c'est nécessaire. Nous allons répondre. Maintenant, il n'y a pas de nom, je ne nommerai personne, quelle que soit la question, je ne ferai que lire la question. Il n'y en a que deux là-dedans qui sont signés, et attendez, je crois que j'en ai une autre. Je sais, c'est le vieux docteur Engelmann, j'ai été le voir dans l'aile sud, au 4 du 426 aile sud. C'est quand le vieux docteur, où nous sommes allés aujourd'hui, était là-bas à Georgetown, il fut guéri. Il était revenu après avoir été inconscient pendant si longtemps. Maintenant, je crois que cela prend soin de tout. Maintenant, nous allons aller à nos questions, celles que j'ai étudiées en premier. Maintenant, levons-nous une minute, s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous sommes assemblés ici, un groupe d'hommes, des chrétiens qui t'aiment, qui croient en toi, et qui t'ont consacré leur vie et se sont mis à ton service. Il y a ici des ministres, jeunes hommes, des hommes d'âge moyen, ils ont des églises et sont responsables devant Dieu. Il y a des diacres qui sont responsables d'un office dans ces différentes églises. Il y a des administrateurs avec leurs responsabilités, des pasteurs, des évangélistes et autres, Seigneur. Ils sont responsables envers toi. Et c'est pourquoi nous nous réunissons afin que nous puissions tous dire la même chose, comme il nous est dit de le faire dans les Écritures, tous tenir, nous le devons, un même langage. Et Père, nous pensons, dans ce groupe que nous sommes, que nous pouvons trouver quelques-uns de nos frères ou quelques-uns parmi nous qui auraient un petit différend sur certaines choses, quelques-uns se demandent ce qu'est réellement la vérité à ce sujet. Et nous savons que nous sommes incompétents chacun de nous. Si je devais demander à n'importe lequel d'entre ses frères de venir répondre à ces questions, peut-être qu'il serait plus compétent que moi pour répondre. Mais tous ensemble, nous sommes soumis à ta révélation, que tu nous révèles à travers ta parole et par ton esprit, afin que nous ayons la réponse à chaque question, que nous puissions être remplis par les réponses et que nous puissions partir d'ici sentant que nous sommes mieux pourvus pour faire ton service et mieux servir dans notre office que nous le sommes maintenant. C'est dans ce but que nous sommes ici, Père. Accorde-le maintenant. Et réponds à nos questions, Père. Nous nous attendons à toi. Qu'il n'y ait pas de malentendu dans aucune de nos pensées. Puissions-nous rester avec chaque question jusqu'à ce qu'elle soit bien et complètement répondue et que nous soyons satisfaits par l'Esprit, unanimement d'accord par sa présence. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je voudrais seulement citer une écriture pour commencer. Comme le prophète Ésaïe a dit, « Oh, venez, plaidons ensemble, dit l'Éternel. » Et je crois que c'est pour cela que nous sommes ici ce soir, c'est essayer de comprendre, trouver la raison de ces choses. J'ai quelques-unes de ces choses écrites ici, selon leur quantité et ainsi de suite, que j'ai eues de frère Wood. J'ai cette enveloppe contenant les réponses. Et maintenant, je veux que chacun de vous, mes chers frères, sache que ces réponses sont données au meilleur de ma connaissance, au mieux que je saurai comment les comprendre. Et ces réponses ne sont pas infaillibles, vous voyez, car les Écritures sont infaillibles, et autant que je sache, elles sont en ligne avec les Écritures. J'espère que cela est facile à comprendre, et la bande sera gardée, et quiconque la voudrait, bien, il pourrait la voir. Mais maintenant, je sais que les Écritures sont infaillibles, mais mes réponses ne sont pas infaillibles. Ainsi, je suis sûr que tout le monde comprend cela, et si elles ne le sont pas, alors vous avez le droit de questionner à n'importe quel moment. Si quelqu'un d'autre a des questions, ce n'est pas nécessaire que ce soit vos propres questions, peut-être que vous n'y aviez pas pensé avant, mais c'est quelque chose que nous voulons aider à éclaircir. Nous sommes ici réunis parce que nous sommes dans les derniers jours, et les jours sont mauvais, et nous voulons être entraînés, instruits. Frère Stricker, un soldat, frère Gaud en arrière, un autre soldat, peut-être frère Ruddle ici aussi fut soldat, frère Biller et les différents autres qui furent dans la vie militaire. Ils sont assis tous ensemble. Vous connaissez le combat avant d'y arriver. Et toutes les tactiques possibles de l'ennemi, ainsi vous pouvez le rencontrer sur son terrain. Lorsque je boxais, il me trouvait un adversaire, trouvait ce qu'il serait, quelle sorte de couille il emploierait, s'il serait un uppercut ou un jab de la gauche ou un chop de la droite, s'il est droitier ou gaucher, sa puissance et son jeu de pied, de quel coin il viendra et toutes les autres tactiques possibles. Et l'entraîneur avait déjà vu ce gars combattre auparavant. Ainsi alors il mettait un homme dans l'arène avec moi pour m'entraîner comme si c'était cet adversaire qui serait là, pour que je sache ce qu'il allait faire. C'est pour la même raison que nous sommes ici ce soir. Nous connaissons la force de frappe de l'ennemi. Nous connaissons ses tactiques. Et nous sommes ici avec les Écritures afin de le découvrir et qu'il ne puisse agir parce que l'ennemi est partout. Frère Robertson, j'étais là-bas et le voyais. Il connaît sûrement ce que c'est un soldat. Il a certainement eu sa part. Combien y a-t-il de soldats ici? Levez vos mains. Combien ont été dans l'armée? Regardez cela, voyez un groupe de soldats. Très bien maintenant, vous savez ce que c'est, et c'est ce que vous étudiez, n'est-ce pas, frère Roy, frère Biller, et vous les vétérans et les autres, c'est étudier l'ennemi. Qu'est-ce qu'il va faire? Quel sera son mouvement? Et alors savoir comment aller le rencontrer. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Le mouvement de l'ennemi, et comment le rencontrer, la chose qui va le vaincre. Et souvenez-vous, permettez que je vous dise ceci, frère. La petite église commença ici sur une ligne de dons. Vous voyez, les dons viennent dans l'église. Mais qu'il y ait des dons ou pas, s'il n'y a jamais un don, je vous dirais, le don ne vaincra pas toujours l'ennemi, mais la parole le fera. La parole le rencontrera n'importe où. Et Jésus, lorsqu'il était sur la terre, a prouvé cela. Il était Dieu manifesté dans la chair. Mais il n'employa jamais aucun de ses dons majestueux pour battre l'ennemi. Nous voyons dans Matthieu, je crois que c'est le second ou le troisième chapitre de Matthieu, ou le second chapitre de Matthieu, lorsqu'il rencontra l'ennemi, il le rencontra sur la base de la parole. Il est écrit. Et l'ennemi revint et dit, il est écrit. Et il dit, il est aussi écrit. Comme cela, jusqu'à ce qu'il battît l'ennemi. Et c'est pour cela que nous sommes ici, c'est pour rencontrer l'ennemi avec le matériel que Dieu nous a donné pour le rencontrer. Maintenant, j'ai environ 4 questions ici. C'est sur un morceau de papier, je les ai numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 et comme cela. Et aussitôt que j'aurai fini cela, alors j'irai dans celles qui sont là qui disent « Frère Branham, si ces questions sont hors de la ligne, ne vous en occupez pas, je ne serai pas fâché, car je saurai que c'est la main du Seigneur. » Question numéro 1. Frère Branham, j'ai entendu, vous dites que je devrais revenir dans le ministère. J'y ai pensé moi-même, mais j'ai attendu un mot précis de lui. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas venu. Maintenant que je sais que le temps est si proche, devrais-je encore attendre que le Seigneur Jésus me parle? Ou lui serait-il agréable de vous dire quoi me dire, vu que je sais que vous parlez pour lui pour ce jour? Bien, maintenant, frère, j'ai écrit ici ma réponse à cela. Dieu appelle ce frère, un appel dans la vie. Maintenant, c'est une grande chose. Nous pourrions prendre cela comme texte et prêcher toute la nuit, vous voyez. Cette chose, un appel. Faites de votre appel une élection certaine, vous voyez. Nous ne voulons pas seulement nous demander si nous sommes appelés. Vous devez être appelés ou vous serez vaincus. Nous sommes dans un combat, vous voyez. Et si nous sommes positifs et certains que votre appel est de Dieu et que vous avez été appelés de Dieu pour faire un travail, et maintenant il y a un piège dans cela que l'ennemi peut employer contre vous. Il peut vous faire penser que vous n'êtes pas appelés ou vous faire croire que vous êtes appelés quand vous ne l'êtes pas, vice-versa, d'une manière ou de l'autre. Et vous devez faire attention. Maintenant, voici la manière de traiter cela. La seule chose que je peux vous donner est un conseil, voyez-vous. Assurez-vous que votre appel est de Dieu. Ce que je veux dire par cela, c'est quel est votre motif pour prêcher? Est-ce parce que vous pensez que c'est un travail plus facile que celui que vous avez actuellement? Alors, vous êtes mieux d'oublier cela. Ce n'était pas un appel. Un appel de Dieu brûle dans votre cœur tellement que vous ne pouvez l'oublier jour et nuit. Vous ne pouvez vous en défaire. Cela vous obsède constamment. Et maintenant, un autre objectif. Je crois qu'au travail que je fais, si je pouvais être un bon évangéliste ou un pasteur, avoir un bon salaire, avoir une maison dans laquelle je pourrais rester et ainsi de suite, y vivre, alors je crois que ce serait une bonne chose, beaucoup plus facile que ce que je fais maintenant. Et je crois que ce serait... Maintenant, voyez, votre objectif est mauvais pour commencer. Vous voyez, ce n'est pas correct. Voyez-vous, vous êtes faux sur cela. Alors vous diriez, bien, pensez peut-être que je serais plus populaire parmi les gens. Vous voyez, vous découvrirez que vous êtes prêt pour un gros flop, réellement, vous voyez. Mais maintenant, si votre objectif est que, peu importe, si je dois manger des biscuits soda et boire de l'eau plate, je vais prêcher l'évangile de toute manière. Quelque chose en votre intérieur crie, je vais prêcher l'évangile ou mourir, voyez-vous? Alors vous irez quelque part, parce que c'est Dieu travaillant avec vous. Dieu se faisant connaître à vous, parce que Dieu ne vous laissera pas de repos, et habituellement un homme appelé de Dieu ne veut pas le faire. N'avez-vous jamais pensé à cela? Tout dernièrement, il me fut demandé par quelques très précieux frères qui dirent, « Maintenant que nous sommes venus dans la voie, frère Branham, maintenant que nous avons trouvé le Seigneur et reçu le Saint-Esprit, devrions-nous rechercher les dons pour notre ministère et les employer ?» J'ai dit, « Ne faites jamais cela, voyez. Ne prenez jamais de directives pour faire des choses semblables. Car habituellement, le gars qui veut faire cela est le gars qui ne peut pas le faire. C'est la personne qui essaye de fuir cela, c'est celle-là que Dieu utilise, voyez-vous? S'il essaye de s'en sauver, « Oh frère, je vous dis, l'appel est en moi, mais pfiou, je n'oserais jamais essayer cela. » Bien, vous y êtes, voyez, c'est essayer de se sauver. S'il veut tellement le faire, la première chose que vous savez, il devient présomptueux. Comme si vous disiez, « Oh Dieu, tu me donnes la puissance de bouger les montagnes. Je te dis, je ferai quelque chose pour toi si tu me laisses déplacer des montagnes. » Non, il ne le ferait pas, car il ne peut même pas venir à la bonne altitude, voyez. Ainsi, il ne déplacerait pas de montagne pour Dieu. Prenons juste par exemple, comme Paul. Vous pensez que Paul aurait pu se soustraire à son appel? Oh frère, il ne le pouvait pas. Ça le rongeait jour et nuit, jusqu'à ce qu'il laisse son église, il abandonna tout, et dans, je crois que c'était l'Asie, n'est-ce pas, il y resta 3 ans étudiant les Écritures pour trouver si c'était correct ou pas, vous voyez, pour savoir si Dieu l'avait réellement appelé. Ainsi, si Dieu vous appelle, frère, et cela continue de travailler dans votre cœur, alors je dirais, lâchez tout le reste, et le péché qui si facilement vous enveloppe, vous voyez. Mais si cela ne vous ronge pas, et alors, je ne penserai pas trop à cela alors. Laissez cela tout simplement se placer. Maintenant, ce frère dit ici, « Frère Branham, pensez-vous que Dieu parlerait à moi pour que je lui dise ?» Je crois que Dieu lui parlerait directement à lui, car vous savez, nous ne sommes pas trop gros pour qu'il puisse nous parler, et il nous parlera certainement, vous voyez, il nous parlera. Et je vous dis, s'il me l'avait dit, alors le frère pourrait dire, « Bien, il l'a dit à frère Branham, louange à Dieu. » Mais vous voyez, ce n'est pas frère Branham qui vous appelle, c'est le Seigneur Jésus qui vous donne l'appel, voyez-vous? Et si c'est le Seigneur Jésus qui vous appelle, il vous parlera. Je pourrais vous parler à l'oreille, mais quand Christ vous appelle au ministère, c'est dans votre cœur, voyez-vous? C'est là que la chose doit se trouver ancrée. Et vous ne pouvez vous en éloigner. Maintenant, si vous avez une quelconque question sur cela ou à ce sujet, vous voyez, l'appel d'un homme doit se trouver dans son cœur, venant de Dieu. Oh, je sais qui a écrit celle-ci, un précieux, cher, gracieux frère qui, je crois, a vraiment un appel de Dieu. Mais je ne voudrais pas qu'il l'accepte parce que je dis, bien, oui, frère, un tel doit aller dans le ministère, vous voyez. Maintenant, vous dites, frère Branham a dit, vous devez faire cela. Vous voyez? Et que peut-être quelque chose arrive à frère Branham. Je me fais tuer, ou je meurs, ou je m'en vais. Alors, vous voyez, votre appel est terminé. Mais si Jésus vous appelle, frère, aussi longtemps qu'il y a une éternité, cela sonnera encore. Voyez-vous? Et vous savez où vous vous tenez. Ou quelque chose comme ceci. Sachant que c'est le dernier jour. J'apprécie certainement cela pour ce frère. J'apprécie certainement cela de ce frère, réalisant que nous sommes dans les derniers jours, et la sincérité de son cœur voulant faire quelque chose pour Christ. La suivante est, « Maintenant, si notre précieux Seigneur voulait me laisser faire quelque chose pour lui, devrais-je retourner aux communautés où j'ai partiellement fait du ministère dans l'erreur, ce que je regrette ?» Il a ceci entre parenthèses, « et essayer de leur dire la vérité, ils sont tellement sur mon cœur. » Non, frère, je ne penserai pas que ce soit nécessaire pour vous de retourner dans ces communautés. Et je crois, cher frère, que lorsque le Seigneur vous appelle, il peut ne jamais vous laisser retourner dans une communauté où vous avez déjà été, où peut-être vous avez enseigné des choses, ou avez eu des choses qui ne sont pas, que présentement vous voyez différemment, vous voyez, que vous pourriez voir différemment de ce que vous voyez alors. Le Seigneur, lorsqu'il vous a appelé, il peut faire la chose réelle pour vous. Il peut vous envoyer n'importe où, voyez-vous. Vous n'auriez pas à retourner à aucune communauté déterminée ou quoi que ce soit. Lorsque vous étiez là, vous étiez sincère. Je connais le frère, comme je dis, qui a écrit ces questions. Avec la plus profonde sincérité, un réel authentique chrétien, vous avez fait le mieux que vous pouviez et au meilleur de votre connaissance, et c'est tout ce que Dieu demande, voyez-vous. Maintenant, si Dieu devait vous appeler de nouveau dans cette communauté, j'y retournerais. Mais s'il ne l'a pas fait, je crois que j'irai où il m'enverrait. Y a-t-il une question? Numéro 3. Comment quelqu'un connaît-il sa vraie position dans le corps de Christ? C'est une bonne question, très bonne. Ce serait le genre de question avec beaucoup d'entre nous ici ce soir. Comment connaissez-vous correctement? Maintenant, je présume que ce frère veut savoir quelle position, quoi en Christ, quelle partie de Christ je joue. Maintenant, par exemple, je dirais comme cela, frère, pour vous donner la meilleure réponse que je connaisse. Votre position en Christ vous est révélée par le Saint-Esprit. Et si vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou non, voyez s'il bénit ce que vous faites ou non. Et s'il bénit ce que vous faites, alors c'est lui. S'il ne bénit pas, comme quelqu'un m'a dit il y a longtemps, il dit, « Le Seigneur m'a appelé à prêcher. » J'ai dit, « Alors prêchez, voyez-vous. » Je crois réellement que si Satan, s'il peut juste amener quelqu'un à faire cela, et alors le tromper, c'est juste ce qu'il veut faire. Alors tout le monde pointe du doigt à ce moment-là. Si quelqu'un pense avoir un don de parler en langue et d'interprétation, un autre le don de guérison divine, quelquefois il se trompe dans ces choses, vous voyez, et quelquefois il pense qu'ils ne l'ont pas quand ils l'ont. Aussi, c'est très délicat. Aussi, faites toujours ceci, frère. Chaque fois que vous sentez que vous êtes supposé faire une chose, premièrement, trouvez si c'est scripturaire pour vous de le faire, si c'est dans les Écritures. Maintenant, pas écrit seulement à un endroit, mais je veux dire complètement scripturaire à travers la Bible pour vous de le faire. Votre position, dites, si vous étiez un évangéliste, un pasteur, un enseignant, prophète ou quoi que ce soit que Dieu vous ait appelé à être, voyez, ou si vous avez le don des langues, le don d'interprétation, n'importe lequel des 9 dons spirituels dans l'Église et les 4 fonctions spirituelles de l'Église, n'importe quelle position, premièrement, voyez si Dieu a appelé. Alors habituellement, de la manière que je surveille pour moi-même, c'est moi, je regarde la nature de la personne et vois la sorte de don qu'elle pratique, voyez. Dieu travaillera avec sa créature de la manière qu'il l'a faite, voyez-vous. Si vous le voyez réellement inconstant et faisant toutes sortes de choses et qu'il dit, le Seigneur m'a appelé pour ceci et cela, être un pasteur. Maintenant, un pasteur ne peut pas être une personne inconstante. Un pasteur est solide et sensé. Voyez-vous, Dieu m'a appelé pour être un enseignant. Et regardez comment il interprète la parole, voyez. Il l'embrouille et tout. Alors vous pouvez dire, voyez-vous. Mais alors votre position est habituellement connue, savoir si vous pouvez le faire ou non. Maintenant, quand Dieu m'a appelé à être un évangéliste, je voulais être un pasteur. Et j'ai pensé que rester à la maison ici serait juste bien. Et le Seigneur m'a appelé. Et finalement, tous les gens se réunirent. Il n'en reste aucun ici ce soir. Ils pleurèrent et se rendirent au 1717 Spring Street. Et là, Madame Hawkins ici me rencontra et dit, pleurant au temps de la dépression de la crise, quand quelqu'un du voisinage faisait cuire un amas de fèves et nous venions tous manger de cela, et elle dit, je priverai mes enfants à table si vous voulez seulement bâtir un tabernacle, voyez-vous. Et mon appel était d'être évangéliste. Le matin, déposez là dans la pierre angulaire, si nous pouvions y voir ce soir, vous verriez une page vierge arrachée de ma Bible sur laquelle il me dit d'être un évangéliste, voyez-vous. Et je n'étais pas pasteur exemplaire, je ne pouvais l'être. Je n'avais pas la patience et ce que ça prend pour être pasteur, voyez-vous. Ainsi, si j'essayais d'être un pasteur, je serais aussi mal placé comme pasteur qu'un pasteur qui essayerait d'être un évangéliste. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous pouvez voir de quelle manière le Seigneur vous appelle, ce qu'est votre position dans le corps. Y a-t-il des questions? Est-ce que toutes les personnes remplies du Saint-Esprit parlent en langue tôt ou tard? C'est la première question. Est-ce que chaque personne? Alors c'est tout dans la même question. Je les ai mis en lot ici pour la 4e question. Mais je dirais ceci en premier, voyez. Est-ce que toutes les personnes remplies du Saint-Esprit parlent en langue tôt ou tard? J'ai trouvé où Paul a dit qu'il parla plus en langue que tous. C'est bien. Question numéro 4. Est-ce que toutes les personnes remplies du Saint-Esprit parlent en langue tôt ou tard? Maintenant, frère, ceci est une question profonde. Maintenant, voilà, j'aurai probablement quelques réponses en retour sur ceci. Une partie du Saint-Esprit est la justification. Dieu doit vous appeler ou vous ne serez jamais appelé. Voyez, il n'y a rien que vous puissiez faire vous-même. Aucun homme ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Est-ce vrai? Ainsi, une partie de la justification est le Saint-Esprit. M'avez-vous entendu expliquer à ce doyen luthérien une fois au sujet du champ de maïs? Voyez, un homme sortit, planta son champ de maïs. Le matin suivant, il sortit et rien. Après un certain temps, il trouva deux petites lames se dressant. Il dit, « Louange à Dieu pour mon champ de maïs. » Et je dis, « Est-ce qu'il avait un champ de maïs ?» Et le doyen luthérien dit, « Potentiellement. » Je dis, « C'est vrai, il en avait un potentiellement. » Mais je dis, « C'était vous les luthériens. » En continuant, les pousses grandirent et devinrent des glands. C'étaient les méthodistes. La seconde phase du maïs, c'était le gland. Je crois que c'est correct, vous les frères fermiers. Et alors le gland regarde en bas la feuille et dit, « Hum, moi je suis un gland, tu es seulement une feuille, voyez, je n'ai plus besoin de toi. » Et alors le pollen tombe du gland en bas dans la feuille de nouveau, il doit avoir la feuille. Et alors de cela sort l'épi, c'était les pentecôtistes. La restauration des dons a comme repris la première place, de retour à l'original. Alors lorsque l'épi sort, il dit, « Je n'ai plus besoin de toi, le gland, ou pas plus que j'ai besoin de toi, la feuille. » Mais après tout, la même vie qui était dans le brin de maïs a fait le gland. Aussi, ce qui est le Saint-Esprit parlant en langue est une justification avancée, voyez-vous. Qu'est-ce que l'Église pentecôtiste? L'Église luthérienne avancée, voyez-vous. Mais quand l'avancement est venu, voilà la question qui se pose. Alors, est-ce que je dois juste arrêter? Non, non, le maïs est mûr, voyez-vous. Vous débutez avec le grain, vous débutez avec la parole, le grain, il produira la justification. Et demeurez dans la justification jusqu'à ce qu'elle produise la sanctification. Restez dans la sanctification jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Maintenant, quand vous recevez le Saint-Esprit, qu'est-ce que cela fera? Vous avez encore une question, n'est-ce pas? C'est bien. Qu'est-ce que le parler en langue? Le parler en langue n'est rien d'autre qu'un baptême du Saint-Esprit qui vous a justifié et vous a sanctifié. C'est tellement rempli. Maintenant, je vous laisse cette question. Dieu sait que je ne savais pas ce que l'homme allait demander. Maintenant, si ça devient trop chaud ici, ouvrez cette porte et si vous vous sentez endormi ou quelque chose, je veux que vous compreniez cela complètement et bien. C'est réellement un peu chaud ici. Cela peut vous amortir. Maintenant, remarquez ceci. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Maintenant, regardez ici, c'est ici. Permettez que je vous illustre cela. Maintenant, je suis ici, je suis un pécheur. Je marche dans cette direction. Une fois, après un certain temps, quelque chose me parle. Et rien ne peut me déranger si ce n'est Dieu. Est-ce vrai? Je suis tourné dans cette direction. Maintenant, quand je me retourne, c'est ma justification. Est-ce vrai? Maintenant, cette image est mon but pour marcher. Voyez, l'image de Christ. Maintenant, je suis à un endroit où je peux me sentir bien. Voyez, je suis justifié. Maintenant, je viens à cette étape où je peux lui parler, mais j'ai encore honte de moi. Je fume encore, je mens encore, et je fais encore ces petites tricheries que je ne devrais pas faire. Et tout le temps, mes hauts et mes bas, mes hauts et mes bas. Mais je veux qu'il me lave de toutes ces choses, afin que je puisse réellement marcher jusqu'à lui et lui parler, voyez-vous? Très bien, c'est ici l'étape de la sanctification. Maintenant, qu'est-ce que cela a fait? Me corriger, voyez-vous? Maintenant, je m'en vais au Saint-Esprit, voyez-vous? Et quand j'arrive ici, je suis dans le Saint-Esprit par un baptême. Est-ce vrai? Que fait le Saint-Esprit? Il me donne la puissance. La puissance d'être un prédicateur, la puissance d'être un chanteur, puissance pour parler en langue, puissance pour interpréter les langues, c'est plein de puissance, car le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui me changea de direction, c'était la puissance de Dieu qui me sanctifia, maintenant c'est la puissance de Dieu qui m'a rempli. Maintenant, une certaine occasion, je me tenais ici et j'essayais de dire quelque chose. Et la puissance de Dieu vint sur moi dans une telle grande manière que je ne peux même plus parler, voyez-vous. Et j'ai commencé à bégayer, comme ceci, c'est ici, je vais l'illustrer de cette manière. Je vais vous parler, frère, d'une manière que vous serez certain de le comprendre. Comment faites-vous, frère? Voyez, je suis toujours coupable. Je suis certainement content que je suis encore l'un des vôtres. Je suis si heureux, voyez. Très bien. Maintenant, après un certain temps, qu'arrive-t-il? Je sais que vous me regardez et que je fais encore ces choses. Fais encore ces choses qui ont en elles les saletés du monde. Après un peu de temps, je suis nettoyé. Maintenant, quelque chose arrive. Je suis sanctifié. Je puis vous regarder en pleine figure. Je suis l'un de vous. Voyez-vous? Très bien. Frère, louange à Dieu, je suis heureux d'être dans ce groupe du Saint-Esprit. Je suis heureux d'être parmi de saints frères. Pourquoi? Vous ne pouvez mettre votre doigt sur moi, je suis nettoyé. Mais maintenant, Dieu va me mettre en service. Maintenant, oui monsieur. Frère Branham, étiez-vous justifié? Oui, je me souviens quand je pouvais difficilement vous regarder, frère. Je peux vous regarder en face maintenant. Voyez-vous, nous y sommes. Maintenant, quel est cet autre? C'est nettoyé et mis à part pour le service. Et cela vient en service. Maintenant, nous savons tous que le mot sanctifié est un mot grec composé qui veut dire nettoyé et mis à part pour le service. Le vase fut nettoyé et sanctifié par l'autel et mis à part pour le service. Mais pour être en service, c'est d'être rempli et mis en service. Maintenant, je vais là, et alors je viens en service. Maintenant, c'est Dieu qui me changea de direction, disant, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, Frère Branham démontre, quelqu'un parle en langue, note de l'éditeur. Vous voyez, ici, vous êtes juste si plein que vous, c'est cela, vous y voilà, c'est le parler en langue. Et je crois ceci maintenant. Je ne crois pas que le parler en langue est une évidence du Saint-Esprit. Ce ne l'est pas, parce que j'ai vu des sorcières, des magiciens, des manipulateurs de serpents, des démons et toutes sortes de choses semblables parler en langue. Et ce n'est pas un acte infaillible de Dieu, quand vous parlez en langue, que vous avez le Saint-Esprit. Mais souvenez-vous, le Saint-Esprit parle en langue, et le démon peut imiter cela. L'évidence que vous avez le Saint-Esprit, c'est la vie que vous vivez, voyez? À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'Esprit n'est pas, ne se trouve nulle part dans les Écritures, le parler en langue. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la foi, la patience, la bonté, la douceur, la gentillesse. Voyez, maintenant, c'est le fruit. C'est ce que vous trouvez sur l'arbre qui dit quelle sorte d'arbre c'est, voyez-vous? Les gens vous regardent, prédicateurs, diacres, administrateurs et vous, évangélistes. Vous pourriez parler en langue ici, sur cette rue, à longueur de journée, ils ne vous croiraient jamais. Mais si vous vivez ce dont vous parlez, que vous montrez de la douceur et que toutes racines d'amertume sont sorties de vous, alors les gens vont réaliser qu'il y a quelque chose là. Le parler en langue. Maintenant, je crois ceci. Qu'une fois ou l'autre, une personne remplie de l'Esprit qui est sous l'autel de Dieu parlera en langue. Mais j'en ai vu plusieurs parler en langue et qui n'avaient jamais rien connu au sujet de Dieu, voyez-vous. Ils ne savaient absolument rien de lui et tout de même ils parlaient en langue. N'importe lequel de ces dons peut être imité. Mais le fruit de l'Esprit prouve ce qui est à l'intérieur. Vous êtes le témoin de la vie de Jésus-Christ. Parce que s'il y a de la sève de péché dans le pommier, il produira des pêches aussi certains qu'il y a un monde. C'est vrai, voyez, parce que c'est la vie qui est en lui. Maintenant, c'est la même chose qu'ici. Mais maintenant, afin que je puisse vous expliquer cela à tous, et que nous sachions tous la même chose, je crois qu'une personne remplie de l'Esprit, maintenant, il vient en Christ par un baptême, et le parler en langue n'est pas l'évidence du baptême, voyez. Un baptême, vous pourriez être baptisé dans la puissance du démon et parler en langue avec le baptême de l'esprit trompeur du diable. Combien avons-nous vu faire cela? J'en ai même connu qui buvaient du sang dans un crâne humain et parlaient en langue. J'en ai vu danser avec des serpents dans le désert. Ils enroulaient ce gros serpent autour d'eux et continuaient en parlant. Le magicien sortait comme cela, il parlait en langue et interprétait. J'ai été dans leur camp de sorciers où ils déposaient un crayon comme cela et déposaient un livre comme cela et le crayon allait de haut en bas d'un tuyau de poêle et jouait un rasage et une coupe de cheveux pour 25 scènes et écrivait en langue inconnue et le magicien l'interprétait et disait exactement ce qui arrivait. Je sais cela moi-même, voyez-vous. Paul a dit, où il y a des langues, elles devront cesser. Où il y a des prophéties, elles failliront. Où il y a tous ces dons, ils seront bientôt abandonnés. Nous avons la question un peu plus tard. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera abandonné, voyez-vous. Aussi nous voulons la chose parfaite, frère, voyez-vous. Nous avons trop de choses fausses et leur avons donné les mauvaises interprétations. Et ne venez jamais devant une personne et croire qu'elles ont le Saint-Esprit parce qu'elles parlent en langue, voyez-vous. Mais vous croyez qu'elles ont le Saint-Esprit parce que les fruits qu'elles montrent, Jésus a dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez, voyez-vous. C'est vrai, à leurs fruits. Maintenant, ne nous éloignons pas de cela, car je ne veux pas déshonorer un grand don que Dieu a donné, voyez-vous. Et je crois qu'un homme ou une femme ou un enfant rempli de l'Esprit qui vit sous l'autel de Dieu ne vivra pas là longtemps sans parler en langue, voyez-vous. Je crois qu'il ou elle le fera. Maintenant, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit et peut-être que vous n'avez pas parlé en langue lorsque vous l'avez reçu, voyez-vous. Et si vous demeurez là constamment devant Dieu, avec un baptême après l'autre vous frappant, quelque chose va se produire, voyez-vous. Vous allez devenir si plein un jour que vous ne pourrez parler de rien d'autre, vous voyez. Vous essayez de dire quelque chose et vous ne pouvez simplement plus le dire, vous ne pouvez le dire. Et très souvent, si les gens réalisaient que c'était le Saint-Esprit, ils continueraient et ouvriraient leur cœur et laisseraient Dieu leur parler. La Bible dit avec des lèvres bégayantes et en d'autres langues, je parlerai à ce peuple. Ésaïe 28, vous voyez, Ésaïe 28, 18. Maintenant avec des lèvres bégayantes et avec d'autres langues, je parlerai. Qu'est-ce qu'un bégayeur? C'est quelqu'un qui ne peut parler régulièrement, faisant... Frère Branham imite quelqu'un qui bégaye, une note de l'éditeur. Vous bégayez juste essayant, voyez, juste si plein de l'esprit, il essaye de dire, comme j'allais dire, frère Jackson, frère Jackson, voyez, c'est comme cela, vous essayez de le dire, mais vous ne pouvez le dire. Voyez-vous, c'est si plein de l'esprit. Je vais vous demander, frère, avez-vous déjà senti l'esprit vous secouer tellement que vous ne pouviez pratiquement rien dire? Vous étiez juste assis là tranquille, juste assis là pleurant. Bien, c'est le Saint-Esprit. La raison pour laquelle les gens ne parlent pas en langue très souvent, ils ne savent pas comment réagir à l'esprit et ils recherchent quelque chose de très éloigné quand c'est directement sur eux, voyez-vous. Et alors, certaines personnes s'engagent dans leurs émotions et disent un tas de paroles sans aucun rapport avec la chose. Et encore, ils n'ont pas le Saint-Esprit et ils essayent de le faire croire parce qu'ils ont parlé en langue. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Voyez? Maintenant, y a-t-il une question? Frère Junior Jackson dit, frère Branham, oui frère. Je suis heureux que cette question soit demandée parce qu'il n'y a pas de doute que quelqu'un se demandait ce avec quoi je suis d'accord et j'ai enseigné la mauvaise chose. Mais je crois que vous devriez l'enseigner. Merci, frère Jackson. Sans égard à combien de fois j'ai pu parler en langue ou quoi que ce soit, si ma vie n'est pas en accord avec ce que la Bible dit, alors je ne suis pas meilleur que le chien ordinaire qui passe sur la rue. C'est vrai. Et je n'ai même pas parlé dans une langue inconnue avant 6 mois après avoir reçu mon baptême. C'est à peu près de la manière que cela m'est arrivé aussi, frère Jackson. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans le hangar, derrière chez moi, vous voyez, et environ 1 an plus tard, ou environ, je parlais en langue, et environ 1 an ou 2 après cela, je prêchais de nouveau dans une église, et je me tenais sur l'estrade comme ceci, et quand j'étais jeune, et que je n'étais pas aussi vieux et raide que je suis maintenant, je pouvais me voir un peu plus facilement, et j'étais très émotif dans mes prédications. Je me tenais là, prêchant, l'église baptiste de Milltown, je descendis dans l'allée prêchant aussi fort que je pouvais comme cela. Et comme j'arrêtais de prêcher, quelque chose me transportant, je dis plusieurs mots, 4 ou 5 ou 6 en langue inconnue. Et avant que je sache ce que je faisais, je m'entendis dire, le rocher dans les terres de lassitude, l'abri au temps de la tempête. Voyez-vous? Et un jour marchant sur la voie ferrée, Je marchais sur la voie de ce côté-ci de Scottsburg, patrouillant la voie ferrée. Le vent soufflait fort, oh, et de la glace partout sur les rails, et je traversais pour pouvoir marcher mon millage 33. Le 66 en allait dans l'autre direction, il allait en parallèle avec la voie, et je descendais la voie et soudainement, je marchais là, je chantais toujours. J'avais différents endroits où j'allais prier, et je marchais près de là, et soudain je vis que je parlais en langue, ne sachant pas ce que je faisais. Le parler en langue vient dans une telle condition que les personnes ne savent à peu près pas ce qu'elles font. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Une interprétation est la même chose. Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire et ils n'ont aucune idée qu'ils vont le dire parce que c'est surnaturel. Voyez, aussi longtemps que vous y mettez du naturel, alors vous avez du naturel. Et vous voyez, mais si quelque chose vous accroche et vous retient et que vous le faites, voyez-vous, Frère Neville dit, « Frère Branham, est-ce que je peux dire quelque chose ici ?»« Certainement, vous le pouvez, Frère Neville. » Maintenant que vous le dites de cette manière, vous n'avez pas l'intention de dire que les langues se doivent d'être en ordre dans le service si un homme ne peut le contrôler, parce qu'un homme qui a un don est supposé en avoir le contrôle. Il peut se contrôler, oui, tout comme vous êtes supposé être assez conscient pour savoir que vous parlez en langue. Oui, c'est vrai. Ou il est en désordre pour commencer. C'est vrai, il le sent, voyez-vous. Maintenant, comme la Bible dit, s'il y en a un qui parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise. Disons par exemple, je me tiens ici, n'importe qui, lorsque vous vous préparez à crier, c'est la même chose. Avez-vous déjà senti la puissance de Dieu venir sur vous lorsque vous commencez à crier? Combien ont déjà fait cela? Bien, nous l'avons tous fait. Voyez-vous, vous êtes assis là, vous le sentez venir. Il y a des temps, vous pouvez arrêter cela, vous voyez. Vous pouvez le retenir, vous voyez, ce n'est pas bien. Qu'en est-il? Vous vous tenez debout parlant au président des États-Unis, vous êtes là parlant au maire de la ville, et vous parlez de choses et d'autres ici sur la rue, et vous parlez à un groupe de gens, et soudainement, vous sentez que vous pourriez commencer à sauter en l'air et crier « Gloire! Alléluia !» et donner des coups de pied partout, et courir sur la rue, aller et retour comme cela. Il dirait que vous êtes fou, voyez-vous? Il dirait « Cet homme est fou, voyez-vous ?» Bien, voyez, vous savez mieux que de le faire alors. Vous vous retenez, même si ça vous ronge, à l'intérieur, et que vous pouvez difficilement le retenir. Vous dites, oui monsieur, oui, oui, Oh, cela vous coupe en morceaux, mais vous savez garder votre paix, Comme au tribunal ici, il n'y a pas très longtemps. Il y avait quelques pentecôtistes là pour avoir crié trop fort ou autre, ce qui était le cas. Cela leur était absolument légitime. Vous voyez, c'est vrai. Mais chaque fois que le juge commençait à leur dire quelque chose, ils parlaient en langue. Voyez-vous, le juge a dit, sortez-moi ces détraqués d'ici. Voyez-vous, maintenant, s'il y avait eu une interprétation à se parler en langue qui aurait dit au juge, ainsi dit le Seigneur. Certain que quelque chose aurait été vrai. Ainsi dit le Seigneur, juge. Pourquoi êtes-vous ici pour me juger quand la nuit dernière vous étiez avec une prostituée? Son nom était Sally Jones. Elle vivait au 44 d'une certaine place comme cela. Pourquoi me jugez-vous? C'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant reniez cela et vous allez tomber mort. Oh, maintenant frère, il y a quelque chose de différent là. Mais lorsque vous vous tenez là et parlez, vous êtes un barbare pour eux, voyez-vous? Maintenant vous voyez, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas répondu. Maintenant, vous savez qu'en rester tranquille et ne pas le faire, voyez-vous. Comprenez-moi bien maintenant. Vous savez ce que je veux dire, voyez-vous. Nous avons cette question écrite ici. La raison qui me la faisait retenir comme ceci, c'est que nous avons la même chose ici. Sont-ils supposés se taire, voyez. C'est pourquoi je n'y ai pas répondu autrement que vous l'avez fait. Mais c'est le temps. Répondez-y maintenant, voyez. Et nous l'aurons pour cette question-ci et je vais vous y retourner. Est-ce que tout le monde comprend bien cette question? Frère Fred parle à frère Branham, note de l'éditeur. Oui, oui, frère Fred. Est-ce qu'une personne qui parle dans l'esprit donnant l'expression, disons en anglais, il pourrait parler anglais, est-ce que l'esprit donnerait l'expression? Certainement, oui, monsieur. Voyez-vous, parce que le Saint-Esprit parle dans toutes les langues. Voyez-vous, au jour de la Pentecôte, toutes les langues sous le ciel étaient réunies ensemble, voyez. Parlant en anglais, je sais toujours cela, frère Freddy moi-même, si jamais je prêche un sermon sur lequel il y a une onction, c'est l'esprit qui donne l'expression, voyez. Ainsi, ce serait une langue inconnue pour un homme qui ne comprend pas l'anglais. Et juste parce que la langue inconnue n'est pas une langue inconnue, c'est, il y a quelqu'un là comme au jour de la Pentecôte, ils dirent, tous ces pécheurs, ils dirent, comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue? Comment entendons-nous ces Galiléens parler dans notre propre langue? Il n'y avait rien d'inconnu là-dedans du tout. Il n'y avait rien de tel que des langues inconnues à la Pentecôte. Maintenant, vous voyez, ce n'est pas scripturaire du tout, voyez-vous. Il n'y avait pas d'inconnus, ce n'étaient pas des langues inconnues, c'était des langages. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langages, ceux de notre naissance? Il n'y a rien d'inconnu là-dedans, voyez-vous. Des questions sur cela maintenant, avant que nous le laissions? Comment entendons-nous ces hommes dans nos propres langages, voyez-vous? Un frère dit, c'est là qu'il y a une petite erreur à cause de la faiblesse humaine, et quand les gens n'accepteront rien, seulement dire, je ne croirai pas cela de toute manière, seulement en accord avec Actes 2.4. Bien, s'ils l'avaient en accord avec Actes 2.4, ils ne parleraient sûrement pas dans une langue inconnue. Non, dans un langage. Ils devaient parler dans le langage que les gens comprenaient, voyez, parce que chaque homme entendait dans son propre langage. Maintenant, si je reçois le Saint-Esprit immédiatement, je crois qu'il y a un frère ici qui recherche le Saint-Esprit, qui est frère Wood. Est-ce vrai, frère Wood? Je ne veux pas vous faire remarquer, mais nous sommes tous des frères ici, et nous voulons faire ressortir quelque chose. Et il recherche le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, si frère Banks a reçu le Saint-Esprit de la bonne manière, s'il l'a reçu selon la Bible, il se lèverait, le dirait, il le dirait en anglais, et dirait « Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ressuscité ». Il disait avec une prophétie brûlante qui le dit, « Je sais qu'il l'est parce que cela est venu sur mon cœur. Il est le Fils de Dieu. Mes péchés sont effacés. Il y a quelque chose qui m'est arrivé. » Voyez-vous, vous y êtes. C'est parlé dans le « Comment entendons-nous ces hommes dans notre propre langage ?» Dites, quand serait-il si nous, les gens de l'Indiana, parlions un langage différent des gens du Kentucky, et frère Banks est du Kentucky, et il parlerait un langage différent alors? Et nous savons qu'il ne peut parler le langage de l'Indiana. Et alors il se lève et parle le langage de l'Indiana. Et nous savons qu'il ne le connaît pas, voyez-vous. Et nous l'entendons dans le langage de l'Indiana. Il pense qu'il parle dans le langage du Kentucky. Il témoigne justement, louange à Dieu, Jésus est ressuscité des morts, alléluia. Mais nous l'entendons dans le langage de l'Indiana. C'est comme cela que c'était au jour de la Pentecôte, voyez-vous. Comment chaque homme entend-il, voyez? Voici ces hommes qui parlent-ils pas tous galiléens? Voyez, du Kentucky, et comment nous de l'Indiana, Ohio, Illinois, Maine, Massachusetts, Californie, les entendons-nous dans notre langage dans lequel nous sommes nés? Comprenez-vous l'idée? Voyez, c'est l'inspiration, voyez, c'est l'inspiration qu'ils avaient d'entendre. C'était une inspiration pour eux. Vous voyez, le message, le sujet en est le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est vrai. Maintenant, si Dieu ne vous fait pas vivre cette vie, peu importe comment vous en témoignez, vous ne l'avez toujours pas. Voyez-vous, c'est vrai. Y a-t-il une autre question? Frère Roy Robertson dit, « Bien, frère Branham, je crois que nous avons vu cela arriver dans la ligne de prière, cette fille espagnole. » Oui, très bon, frère Roy. C'était justement où je m'en vais maintenant. Beaumont. Était-ce à Beaumont? Oui, monsieur. Maintenant, la ligne de prière était arrêtée. Il y avait une petite fille espagnole qui montait sur l'estrade. Bien franchement, je crois que je sortais, n'est-ce pas? Howard m'aidait à sortir. J'entendis quelqu'un pleurer. C'était une petite fille espagnole, là, ou environ 15 ou 16 ans, juste une enfant. Et je regardais, elle était la suivante dans la ligne de prière, si j'avais continué. Il y en avait beaucoup, elle avait la carte de prière suivante. Je dis, faites-la monter. Alors ils l'amenèrent, la firent monter. Je partais pour une autre réunion, je dis, amenez-la. Ainsi je vis ce qui se passait. Je lui dis quelque chose comme ceci. Maintenant, croiras-tu, si Jésus m'aide à te dire ce qui ne va pas en toi, croiras-tu qu'il te guérira? Et elle tint simplement sa tête baissée. Je pensais, elle doit être sourde et muette, voyez-vous. Ainsi, quand je regardais de nouveau, je dis, non, elle ne peut simplement pas parler anglais. Alors ils amenèrent un interprète et je dis, le croirez-vous? Elle se recula. Alors elle put comprendre par l'interprète naturellement, voyez-vous. Bien, alors je regardais, vis une vision. Je dis, je vous vois assise près d'un vieux foyer où il y a une vieille marmite suspendue, pleine d'épis de maïs jaune. Vous vous souvenez de cela, frère Roy? Je dis, vous avez trop mangé de ce maïs. Quand vous l'avez fait, vous avez été terriblement malade, et votre mère vous a mis au lit, et vous avez commencé à faire des crises d'épilepsie. Je dis, vous les avez depuis ce temps. Et alors elle se tourna vers l'interprète et lui dit dans sa propre langue, je croyais qu'il ne pouvait parler l'anglais, ou l'espagnol plutôt. Il se tourna vers moi et dit, vous n'avez pas parlé en espagnol, n'est-ce pas? Je dis, non. Alors nous avons regardé vers la machine à enregistrer. Nous sommes allés à l'enregistrement et nous l'avons arrêté. C'était absolument de l'anglais. Mais l'interprète dit, alors vous me dites ce qu'il a dit. Vous voyez, il devait faire l'interprétation. Il dit, dites-moi ce qu'il a dit. Et elle lui redit les mêmes mots encore et il les redonna de nouveau. Maintenant, elle m'entendit dans son propre langage, celui de sa naissance. Et je parlais anglais. Elle l'entendit en espagnol. Comment entendons-nous ces hommes dans notre propre langue, celle de notre naissance? Et l'enfant fut guéri, voyez, c'est cela, ce sont les œuvres merveilleuses de Dieu. Un frère demande, alors le vase qui contient le Saint-Esprit sera simplement un vase, et celui qui le remplira avec ce qu'il... Avec ce qu'il voudra bien, c'est vrai, exactement vrai. Et alors surveillez avec quoi c'est rempli. Alors vous savez si vous avez le Saint-Esprit ou non, voyez-vous. Juste surveillez de quoi c'est rempli. Si le vase est rempli d'impureté, alors ce n'est pas le vase de Dieu. Mais si il est rempli de pureté, alors c'est le vase de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Le frère dit, et le vase, il y a des temps où le vase sera employé, mais ne sera pas connu, pas être connu autant que lorsqu'il fut employé. Oh, certainement. Le frère donne un témoignage. C'est absolument vrai, certain. Oh, nous tous, nous voyons cela. J'ai vu cela plusieurs fois. Oui, monsieur, nous tous, nous savons, nous connaissons ces choses. Je crois que c'était le numéro 4. Est-ce que toutes les personnes remplies du Saint-Esprit parlent en langue tôt ou tard? Je vois où Paul a dit, je parle plus en langue que tous. Maintenant, ce que je pense, pour terminer la question du frère, Paul parlait en langue plus que tous les autres. Paul était un homme brillant. Il connaissait plusieurs langages lui-même, voyez. Il pouvait parler plusieurs. Souvenez-vous, lorsqu'il était au tribunal, il pouvait parler un langage ou un autre langage ou quoi que ce soit. Et c'était des langues inconnues pour les gens. Mais cela n'était pas inspiré, c'était une langue parlée, voyez. Mais je crois qu'une personne remplie de l'Esprit et qui vit sous l'autel de Dieu, il n'y a pas de doute, un jour ou l'autre, elle aura une expérience de parler en langue, car c'est une des moindres et une des dernières choses selon la description de Paul. Si vous les mettiez par ordre, c'est la dernière chose dans la ligne des dons, voyez-vous, c'est le parler en langue. Mais maintenant, premièrement, vous êtes baptisés. Voici, chacun de vous est un don. Je suis à l'extérieur. Maintenant, par une porte, un esprit... Une porte entre dans cette pièce, n'est-ce pas vrai? Maintenant, je ne peux venir par là, je ne peux venir par ici et revenir par là, voyez-vous? Comment est-ce que j'entre ici? Par frère Robertson? Non, monsieur. Par, bien disons, frère Léo, qu'il serait le don de parler en langue, voyez? Est-ce que j'entre par Léo? Non, monsieur. Bien, comment est-ce que j'entre? Par une porte, par un esprit. L'esprit n'est pas que langue. Oh, non. Voyez-vous? Voyez, par un esprit, je suis baptisé dans ce corps. Maintenant, ceci est l'Esprit. Vous êtes tous comme des dons. Vous dites, bien, béni soit Dieu, je vais y aller. Je dis, voici frère Wood, il a les miracles, voyez-vous. Oh, il y a eu un miracle accompli. Je crois que j'ai le Saint-Esprit car j'ai accompli un miracle. Nous sommes tous baptisés dans le corps par un miracle. Allons à frère Junie, alors, il a la connaissance. Bien, bien, j'ai la connaissance de la Bible. Oh, je vous dis, je sais que j'ai le Saint-Esprit à cause de cela. Non, ce n'est pas encore la manière d'entrer. C'est bien, pas par frère Léo, pas par frère Wood, ni par frère Junie, voyez-vous? Non, mais par un quoi? Les frères disent, l'Esprit. C'est bien, je suis baptisé dans ce corps, maintenant je suis dedans maintenant. Où le Père va-t-il m'utiliser, voyez-vous? Il se trouve que c'est Léo qui est assis près de la porte. Il n'y a pas de doute, ce serait la première chose qui arriverait, ou il se peut aussi que ce ne soit pas cela. Je pourrais être tellement riche de l'Esprit que Dieu viendrait directement ici à frère Wood, passerait par-dessus tous les autres. Vous ne pouvez pas me dire maintenant que je n'ai pas le Saint-Esprit, car je suis dans ce corps par baptême. Mais Dieu ne m'a jamais amené ici pour dire, bien, béni soit Dieu, je crois que je vais m'asseoir maintenant et prendre cela, relax, je m'en vais au ciel. Voyez ce que je veux dire? mais je pourrais aller directement d'ici là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais aller d'une extrémité à l'autre ou au milieu, n'importe où. Mais quelque chose arrivera, quelque chose doit arriver. Et qu'est-ce que c'est? Par le baptême de l'Esprit, il me montre que je suis dans le corps, par un esprit. Vous comprenez cela, frère, jusqu'ici? C'est bien. C'est cela, très bien. Dans quel ordre les langues et les prophéties doivent-ils être utilisées durant le service? Ce n'est pas du tout à utiliser pendant le service, voyez-vous, pour glorifier Dieu. Pas du tout, et édifier l'Église. Je sais que les gens disent l'esprit du prophète. Non, la Bible dit l'esprit des prophètes est assujetti aux prophètes. Exactement. Le parler en langue spirituelle et les prophéties sont pour édifier l'Église. Mais ils ont un service qui leur est propre, voyez-vous. Cela ne dérangera pas aussi longtemps que la réunion est en ordre. Ça ne doit jamais interrompre la réunion. Maintenant, voyez les esprits des prophètes. Nous avons une autre question maintenant. Laissons cela seulement pour une minute. Voyez, la vraie manière correcte d'opérer ces dons, ceci englobe plusieurs dons, voyez. Lorsque nous y arriverons, nous dirons, nous y avons répondu dans la première à cette personne sur celle-ci, voyez-vous. C'est le numéro 5. Est-ce que les langues et les prophéties peuvent être employées pendant les services pour glorifier Dieu? Vous voyez maintenant, si le ministre est loin de Dieu et que l'Église est en ordre, maintenant la bonne manière, beaucoup d'entre vous savent comment, je vous ai parlé sur le sujet, mettez cela en ordre. Maintenant voici ce que nous ferons dans le tabernacle, Dieu voulant. Maintenant je regarde et je vois quelque chose, laissant Ferneville et ses autres frères ici en ordre. Maintenant plusieurs d'entre vous, frères, êtes de jeunes frères. Maintenant je suis un vieux vétéran pour vous tous de cette voie. J'ai été 31 ans dans cela. Il y a environ 30 ans, j'ai posé cette pierre-là. Je fus confronté à tout ce qui pouvait se présenter, et vous êtes mieux non seulement de savoir de quoi vous parlez quand vous y arrivez, vous êtes mieux de connaître non seulement cela, mais d'avoir Dieu pour l'appuyer lorsque vous avez terminé avec la chose. Maintenant, la meilleure manière de faire ceci, maintenant, vous pourriez avoir une réunion spéciale. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait dans 1 Corinthiens 14. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise alors. Je crois que c'était une réunion spéciale pour les dons, ce qui serait bien. S'ils voulaient avoir une réunion spéciale où toutes les personnes qui ont des dons se rencontreraient une fois par semaine. Ceux qui ont des dons viendraient dans l'église, ce serait bien. Laissez-les avoir cette réunion. Pas de prédication, c'est pour les dons de l'esprit. Ce n'est pas pour ceux de l'extérieur et les incroyants. Il pourrait venir dans la réunion, s'asseoir et un se lève et s'en va. Ah ah, parler en langue, un autre dit waha. Dans le monde, qu'est-ce que cela? Ils entreraient et diraient, qu'en est-il des chants? Où est le reste de cela, voyez-vous? Mais maintenant, ceux qui parlent en langue, plusieurs d'entre eux, parlent, interprètent et ainsi de suite, sont des bébés dans l'évangile, voyez-vous? Ne les offensez pas, laissez-les grandir jusqu'à ce qu'une partie de cela, vous pouvez voir Satan essayer de s'infiltrer là-dedans. Naturellement, les vétérans, nous voyons cela. Vous voyez, nous pouvons rattraper cela et vous le surveillerez. Ici, il n'y a pas très longtemps, un certain ministre, assis juste ici, présentement, vint à moi et m'invita chez lui un très précieux frère. Je ne dis pas cela parce qu'il est assis ici, mais vous êtes tous des précieux frères. Si je ne pensais pas cela, je vous le dirais. Commençons par redresser cette chose entre nous, premièrement. Voyez-vous, c'est vrai, voyez-vous. Je vous aime tous. Et je veux l'entendre dans l'esprit de tolérance de la Bible, voyez, pour aider, voyez-vous. J'étais dans la maison de ce frère, une certaine femme, et cette femme était fausse. Je n'ai jamais vu la femme, mais je l'ai entendue sur bande donner une interprétation de parler en langue et disant quelque chose. Vous pouviez le voir exactement sur le moment. Un jour, un autre ministre, la même personne, nous étions assis sur une souche à la chasse à l'écureuil et parlions de cela. Et les deux ministres présents ici savent comment cela s'est passé, voyez, juste surveillez. Quand vous les ministres, vous corrigez quelqu'un au sujet d'un don, lorsque vous les corrigez scripturairement et qu'ils s'en offensent, souvenez-vous, ce n'était pas l'Esprit de Dieu, car l'Esprit de Dieu ne peut être offensé par sa parole. Il vient à sa parole, voyez, il est toujours consentant. Un vrai saint de Dieu veut se tenir sur la marque. Oui, monsieur, je veux être corrigé. Je veux que le Saint-Esprit me corrige dans les choses que je fais mal. Je ne veux aucun substitut. Je veux la chose vraie ou rien. Laissez-moi tranquille, ne me donnez rien du tout, voyez-vous, parce que j'aimerais mieux faire cela que d'amener l'opprobre sur le Christ. et je n'enseignerai rien et je ne dirai rien si ce n'est les Écritures. Et si quelques frères, quelques chrétiens me voyaient enseigner une chose fausse, j'apprécierais si vous m'attiriez à côté après le service et disiez, frère Branham, j'aimerais venir à votre pièce, à votre bureau et vous parler, car vous êtes dans l'erreur sur quelque chose, voyez-vous. J'apprécierais sûrement cela, frère, car je veux être correct, je le veux. Maintenant, nous voulons tous être corrects. C'est pourquoi nous voulons dire ces choses. Elles doivent venir par les Écritures, voyez, pour que les Écritures se lient ensemble. Maintenant, le parler en langue devrait, maintenant, laissons cela pour un moment, voyez, je recommanderais de laisser aller et de laisser faire. Et à tous les ministres, vous les pasteurs, laissez aller jusqu'à ce que ces bébés vieillissent un peu. Maintenant, peut-être que tôt ou tard, si c'est l'ennemi qui essaie de tromper cette personne, vous le verrez. Nous ne sommes pas trop certains. Maintenant, après cela, avant que vous commenciez ceci, amenez un peu d'esprit de sagesse dans cela. Un peu d'esprit de discernement, vous voyez, afin de voir. La première chose que vous savez, vous commencez à remarquer que quelqu'un commence à voir qu'il y a quelque chose de faux. C'est le discernement. Alors soignez cela un petit moment, voyez-vous. Alors lorsque vous voyez le discernement se tromper, alors corrigez cela. Et si c'est de Dieu, il prendra la correction avec la parole, voyez-vous. Disons par exemple, je vais dire, nous avons parlé en langue, quelqu'un. C'est un don pour un groupe d'hommes. Et Léo s'est levé et a parlé en langue. Alors un frère ici, Willard, donne l'interprétation. Tout à fait bien. Maintenant, je veux dire que frère Neville et frère Johnny et frère Willard Collins étaient les discerneurs, voyez. Maintenant, nous sommes ici comme une petite réunion de saints, une réunion pour les dons. Et Léo a parlé, Willard a donné l'interprétation et a dit, « Ainsi dit le Seigneur. Mercredi soir, il y a une femme qui va venir ici, elle va être violente. Dites à frère Branham de ne pas la réprimander parce qu'elle est démente. Mais dites-lui de l'amener dans le coin, car c'est dans un coin qu'elle a fait une chose méchante une fois, et une certaine chose est arrivée, voyez-vous. » Cela semble très bon, n'est-ce pas? Voyez-vous, très bien. Maintenant, mais la première chose, vous savez, dans les anciennes Écritures, peu importe ce que le prophète disait, ou ce que n'importe qui disait, c'était vérifié par l'Urim Thummim, premièrement. Voyez, cela allait à la parole, et si ces lumières ne brillaient pas, ils abandonnaient la chose, voyez-vous. Et la première chose maintenant, ramenons cela à la parole. Maintenant, cet homme a parlé en langue. Cela semble très bien. Celui-ci a interprété, cela semble aussi très bien. Mais la parole dit que cela soit jugé par deux ou trois juges, premièrement. Amenez-le à l'Urim Thummim. Maintenant, première chose, Willard Collins se dit, c'était du Seigneur. Junie dit, c'est du Seigneur. C'est deux sur trois, c'est bien. Cela est mis sur une feuille de papier, c'est dit ici dans l'église. Alors les gens qui l'ont entendu lire avant même que cela arrive et le voient arriver, ils disent, « Frère, c'est Dieu, voyez, c'est Dieu. » Mais qu'en est-il si cela n'arrive pas? Que se passe-t-il, voyez-vous? Maintenant nous allons prendre autre chose que je peux prendre immédiatement. Est-ce que toute interprétation est message et prophétie? Maintenant, juste une minute. Maintenant, qu'en est-il si ça n'arrive pas? Alors Léo a parlé sous un faux esprit, il a donné une fausse interprétation, et lui un faux jugement. Alors enlevez cette chose de vous. Vous ne voulez pas cela, c'est mauvais. Laissez cela tranquille, c'est du diable, voyez-vous? Espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Je ne suis pas un prédicateur, mais je suis un interprète, voyez, je suis un interprète. Seigneur, je ne suis pas un prédicateur. Frère Léo dit, Seigneur, je ne suis pas un prédicateur, mais j'ai un don de parler en langue. Et le démon me bouleverse avec cela. Oh Dieu, enlève-moi cela. Vous dites, Seigneur, tu m'as donné l'esprit de discernement, et je t'ai vu le faire tellement de fois. Comment cela est-il arrivé? Père, lave-moi. Qu'est-il arrivé? Voyez, vous y voilà. Maintenant, vous l'avez vraiment. Vous voyez, c'est une réunion régulière de saints. Je crois que c'est cela, c'était dans la Bible, car Paul a dit, si un prophétise, et que quelque chose est prophétisé, et quelque chose est révélé à quelqu'un qui est assis, qu'il attende que celui-ci parle en premier, alors il peut parler, et vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre. Maintenant, cela ne peut se faire dans une réunion régulière, vous savez cela. Maintenant, pour être certain que c'est de Dieu, vous voyez, parce que si ce ne sont que des jeux, ce n'est pas de Dieu. Si cela n'arrive pas, ce n'est pas de Dieu, voyez-vous. Cela se doit d'arriver. Et aussi dans nos églises, voyez, nous avons alors une église solide, voyez, où personne ne peut dire que rien n'est dit ou fait. Regardez où cela me met quand je suis là devant le public. Regardez cela, qu'en serait-il une erreur sur ceci, voyez-vous? Parce que je lui fais confiance, voyez-vous, je lui fais confiance. Quelqu'un dit, craindriez-vous une erreur, frère Branham? Non, non, je ne crains pas une erreur, je crois en lui, il est ma protection, je suis ordonné pour faire cela, ainsi je resterai là. Si Dieu vous a ordonné pour faire quelque chose, alors il est votre protection, voyez, et il vous protégera. S'il vous a envoyé, il prouvera votre parole. Vous êtes un ambassadeur alors. Vous êtes un ambassadeur avec le don des langues. Vous êtes un ambassadeur avec le don d'interprétation. Vous êtes un ambassadeur avec le don de discernement. Vous êtes un ambassadeur tous les trois. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez une église solide. Vous ne craindriez pas de vous tenir comme hier. Voici, j'étais dans une réunion près d'ici. Un petit gars d'Angleterre est venu. Il essayait de se suicider. Frère Banks vint là et dit, il a été là pendant 4 ou 5 jours. J'avais beaucoup de choses à faire, mais il dit, le garçon va se suicider. L'hôtel Waterview là-bas m'a dit la condition de ce gars. Je suis allé dans ma chambre prier pour lui. Je suis ressorti et j'ai dit, maintenant, frère Banks, je n'ai jamais vu cet homme et je ne connais rien à son sujet. Mais je vais vous dire ce qui ne va pas chez lui avant d'aller là. Est-ce vrai, frère Banks? Et lorsque nous arrivâmes là, le Saint-Esprit descendit et lui dit tout à son sujet, où il avait été et tout, regardant sa vie. Il en fut presque renversé. Seriez-vous effrayé de faire une erreur, frère Branham, lorsque vous dites quelque chose comme cela à quelqu'un? Comme sur l'estrade, lorsque vous dites à un homme qu'il n'est pas fidèle à sa femme, qu'il a eu un enfant avec une autre femme, il vous fera jeter en prison. C'est mieux d'être vrai, voyez-vous. N'ayez pas peur si c'est de Dieu. Et restez tranquille jusqu'à ce que vous sachiez que c'est de Dieu. N'est-ce pas vrai? Soyez certain que c'est vrai. Alors, allez-y. Maintenant, c'est un enseignement profond, frère. Mais vous êtes mes frères. Vous êtes de jeunes ministres qui débutent et je suis un vieil homme qui va partir un de ces jours, voyez-vous. Et ainsi, soyez certain que c'est correct. En sortant de la chambre du « peut-être que je vais rattraper cela un peu plus tard là-dedans ». Bien, je vais en dire une partie tout de suite. Hier, frère Banks et moi avons été réellement occupés. Je fis de mon mieux et je vous dirai ce que j'avais l'intention de faire à cette réunion. Léo, Jean et un groupe parmi nous devions aller là et frère et dire que nous allions chasser le porc, le cochon sauvage. Ils ont une chasse au cochon de 5 jours, au sanglier. Avec une sorte d'art aigu, en Arizona. Après les réunions, notre réunion se termine. Nous allons à Phoenix pour une journée, et nous avions 5 jours à attendre, 4 jours à attendre sans réunion nulle part. Et nous devions être là en Arizona. Il arriva que c'était juste au moment où cette chasse aux sangliers débuterait. Aussi, je voulais aller tirer avec ma petite carabine pour savoir s'il était toujours en bonne condition. Banks venait avec moi. Nous partîmes en direction de la barrière pour traverser. Voici qu'un homme s'en vient directement vers nous, passant par-dessus l'écriteau disant, « Ne demandez pas, frère Branham. » Voyez, la raison de cela, ce n'était pas pour les gens malades. Cette maison, demandez à Banks, il vit dans la maison voisine. Les gens viennent, jour et nuit et n'importe quand, vous avez des enfants malades et tout. Nous ne renvoyons personne dans ce cas. Et ils m'appelèrent, Léo et les autres, de leur remorque, et Jim et les autres. Il y a ici quelqu'un avec un bébé malade, et un homme est ici, il a un cancer. Nous abandonnons tout, voyez, et nous partons vers lui. La nuit dernière, je fus appelé dans une chambre d'hôpital où quelqu'un me demandait, l'homme ne voulait même pas me laisser entrer lorsque je suis arrivé. Voyez, quelqu'un d'autre s'était enthousiasmé trop vite. Mais c'est bien, j'y vais de toute manière, voyez, parce que c'est mon devoir d'y aller, voyez, et d'essayer d'aider quelqu'un. Ce n'est pas pour cela que l'écriteau est là. Mais cet homme arriva, juste comme nous entrions dans la voiture, et frère Banks sait que j'ai dû attendre. J'attendis dans cette maison de toute manière. Quelqu'un venu pour frère Banks l'a retenu, et aussitôt que j'arrivais, je fus retenu moi aussi. Et alors, comme nous prenions nos carabines et partions vers la voiture, Voilà que cet homme s'avance. Il arrive là, et je me préparais à lui dire de sortir et d'appeler ce numéro 282-1519, là-bas sur l'écriteau. Je dis, nous sommes pressés. Il dit, je suppose que vous êtes pressé, monsieur. Je dis, mon nom. Premièrement, je marchais vers lui, il dit, comment allez-vous? Je vis qu'il ne savait pas qui j'étais. Je dis, mon nom est Branham. Je dis, je suis... Et il dit, je voulais vous rencontrer, frère Branham. Je vois que vous vous préparez à partir. Je dis, oui, monsieur, je m'en allais. Il dit, je sais que vous êtes pressé. Je dis, je le suis, monsieur. Et il dit, bien, je voulais seulement vous parler quelques minutes. Et j'allais lui dire, et le Saint-Esprit me dit, fais-le entrer, tu peux l'aider. Maintenant, là, cela change tout. Les carabines sont mises de côté, tout le reste. Le travail de Dieu en premier, vous voyez? Je dis, venez avec moi. Je dis, je reviens tout de suite, frère Banks. Il dit, c'est mon âme, frère Branham. Je dis, c'est bien, entré. Nous avons traversé la maison. Meda dit, tu n'es pas encore parti? Je dis, non, 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 c'est quelqu'un ici. Je dis, garde les enfants dans l'autre pièce. Je l'ai amené dans l'autre salon et nous nous sommes assis. Cet homme était dans l'église hier soir. Où est-ce qu'il est venu, Banks? Là-tu, oui, il devait venir hier soir. Première chose, le Saint-Esprit a commencé à lui dire qui il était, ce qu'il avait fait, ce qui était arrivé dans sa vie, tout à son sujet, voyez, juste là, lui disant tout. Banks est un témoin, il n'ouvrit jamais la bouche et ne me dit pas deux mots. Et le voilà qui lui dit, il dit, tu as été un vagabond, tu as réellement vécu à Madison, tu arrives d'Evansville, Indiana, tu étais là dans une école de la Bible, une secte, tu es devenu tout embrouillé, tu viens d'arriver à Louisville il y a quelques minutes. Il y avait là un homme, tu t'es assis avec lui et tu as mangé, il t'a dit de venir ici me voir et que je te sortirai de cela. Je dis, c'est ainsi dit le Seigneur. L'homme est assis là, battant des paupières, me regardant, il dit, oui monsieur. Je dis, cela vous a étourdi? Il dit, pour sûr. Je dis, croyez-vous le Saint-Esprit? Il dit, je le veux monsieur. Et je dis, vous voulez que je vous dise ce à quoi vous pensez? Il dit, oui monsieur, je le lui ai dit. Il dit, eh frère, c'est la vérité. Et je lui dis, changez vos pensées. Il dit, très bien, je l'ai fait. Je dis, ceci, est-ce à quoi vous pensez? Il dit, c'est vrai, c'est vrai. Je dis, maintenant, vous n'avez pas besoin d'une vision. Vous n'avez besoin que d'être rappelé à l'ordre. Et je lui ai dit quelque chose là que vous ne voudriez pas que je dise. Si c'était vous, vous ne voudriez pas. C'est une chose mauvaise qui était horrible. Aussi, vous ne voudriez pas que je le dise si c'était sur vous. Et je ne dis pas ce que le Seigneur me montre sur les gens. Aussi, j'ai simplement dit, tout est bien, vous le ferez? Il dit, je le ferai. Je dis, allez votre chemin. Nous fûmes là environ pas plus de 10 minutes, n'est-ce pas, frère Banks? Environ entre 7 et 10 minutes. Nous sommes sortis, revinrent sur la route, et en descendant la route, lui, moi, Banks, et mon petit garçon, Joey, je crois que c'était, nous en allons sur le chemin, descendant l'autoroute. Il se retourna vers moi et dit, monsieur, je vais vous poser une question. Je dis, très bien. Il dit, je suis un peu troublé. Il dit, comment connaissiez-vous tout cela sur moi, voyez-vous? Banks était assis là. Et je dis, monsieur, n'avez-vous jamais entendu parler de mes visions et de mon ministère? Il dit, je n'ai jamais connu votre nom avant que cet homme me le dise il y a une heure. Il m'a dit là-bas, à Louisville, de venir ici, et j'ai traversé le pont à pied. N'est-ce pas vrai, Banks? Il dit, je ne connaissais même pas votre nom, je ne savais pas qui vous étiez. Je dis, dans mon ministère, c'est un don de Dieu. Il dit, alors, si c'est comme cela, il dit, tout est correct maintenant. Il dit, tout est parti, voyez-vous. Il dit, ce que c'était Dieu me parlant par vous. Je dis, c'est bien cela. Il dit, maintenant je comprends ce que j'ai lu dans la Bible. Et il dit, Jésus parla à ses disciples. Par là, il voulait dire les gens, voyez. Il dit, il parla à ses disciples et il leur dit les choses auxquelles ils pensaient, voyez, percevant leurs pensées. C'est à cela qu'il arrivait, il dit, et il dit que c'était son père qui parlait par lui. Je dis, c'est vrai. Il dit, maintenant le père alors s'est servi de vous pour me parler, pour me dire ces choses, et m'amener à croire que ce que vous m'avez dit était la vérité. Je dis, était-ce la vérité? Il dit, oui. Il dit, alors cela se doit d'être Dieu. Et je dis, frère, vous en connaissez plus à ce sujet maintenant. Moi et Banks le remarquions. Que quelques-uns qui ont été dans les réunions depuis 10 ans et ne le savent pas. Maintenant, c'est comme cela, voyez-vous. Et l'esprit dans l'ordre des langues est-il utilisé pour prophétiser pendant le service? Non, il devrait être utilisé de cette manière et alors dit dans le service. Mais pour cette fois, pour le temps présent, laissez-les parler. Maintenant, si cela sortait de l'ordre, ce n'est plus bon, vous devez surveiller cela. Maintenant, quelquefois, il se peut que ce soit Dieu. Et c'est nouveau, comme ces enfants essayant de marcher, maintenant s'ils tombent 4 ou 5 fois. Maintenant, j'ai vu cela depuis que je suis ici dans l'église. Eh bien, je laisserai cela comme c'est, voyez-vous. Mais qu'en est-il, diriez-vous alors? Frère Branham, pourquoi n'avez-vous pas corrigé ceci? Non, non. Quand Billy Paul autrefois a commencé à marcher, il était debout et à terre plus souvent que debout. Mais il ne savait pas marcher. Mais je crois qu'il avait le don de marcher, voyez-vous. Je l'ai laissé marcher pendant un certain temps. Et alors, lorsqu'il accroche ses gros pieds, je le lui dis maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez-vous? S'en allant, regardant ailleurs, sautant et ainsi de suite, je lui dis, lève tes pieds, fiston. Où es-tu? Voyez-vous? Maintenant, c'est la différence, vous voyez? Maintenant, laissons-les trébucher et s'empêtrer pendant un petit moment. Maintenant, quand vous devez les corriger, s'ils n'acceptent pas cela, vous savez vous-même que ce n'était pas Dieu. Car l'Esprit de Dieu, comme vous le voyez ici, l'Esprit des prophètes est assujetti, soumis aux prophètes. Voyez-vous, c'est vrai. Frère Stryker dit, « Frère Branham, j'aimerais faire une correction. »« C'est bien, frère. » Plusieurs fois, j'assistais à des services et j'ai entendu parler en langue et interpréter. Et la plupart du temps, je me suis senti très embarrassé à ce sujet. Et je suis allé chez moi et même je me suis repenti tout le long du chemin. Était-ce parce que j'avais senti que ce n'était pas Dieu ou était-ce parce que ce n'était pas en ordre? Cela est possible, frère. Il se peut que ce soit l'un ou l'autre, voyez-vous. Je voudrais dire, maintenant c'est William Branham, vous voyez, jusqu'à ce que je vois dans les Écritures ce dont il s'agit. C'est encore moi, vous voyez. Maintenant je pourrais dire ceci, peut-être que c'était en désordre. Ce pouvait être quelque chose de faux avec vous. Ce pouvait être quelque chose de faux avec cette personne. Quelque chose de faux avec le message donné. Ou quoi que ce soit qui vous fasse vous sentir concerné ou embarrassé. Maintenant, laissez-moi vous aider un peu ici, frère Stryker, voyez-vous. Ne jugez jamais rien sur des impressions, vous voyez. Jugez-le sur ses attributs, vous voyez. Si cela porte fruit, vous voyez. Naturellement, nous réalisons qu'il y a des choses que nous sentons, un sentiment d'étrangeté. J'ai cela moi-même. Je commence à m'éloigner tout doucement, vous savez. Mais ne dites rien, laissez cela tranquille, car je ne sais pas ce que ce pourrait être, vous voyez, jusqu'à ce que je sache ce que c'est. Maintenant, comme beaucoup de gens disent, « Oh, frère, je sais que j'ai le Saint-Esprit, alléluia, louange à Dieu !» Et ils n'auraient pas encore le Saint-Esprit, ils pourraient parler en langue et tout le reste, et crier, et danser dans l'Esprit, et encore ne pas avoir le Saint-Esprit, parce que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Ce n'est pas par des sentiments, c'est par les fruits. Disons qu'il est un... Vous souvenez-vous de ma vision de cela, Hébreux 6, vous voyez? La pluie qui tombe souvent sur la terre et qui produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et on finit par y mettre le feu. Excusez-moi, je vais faire entrer un peu d'air. Je sais que vous avez sommeil, que vous êtes fatigué. Ainsi maintenant, attendez, je devrais me dépêcher et aller un peu plus vite dans cela ou je ne les passerai pas. Cela doit être, nous sommes à la base de tout cela, dans cette petite poignée ici. Mais ils verront le, voici un champ de blé. Et dans ce champ est semé du stramoine, des chardons et toutes sortes de mauvaises herbes. Alors il y a une sécheresse. Maintenant la stramoine, les chardons ne seront-ils pas aussi assoiffés que le blé? Et quelle sorte de pluie est? Une pluie spéciale tombe sur le blé? Et alors une pluie spéciale tombe sur la stramoine et les chardons? Est-ce vrai? Non! La même pluie tombe sur lui. Est-ce vrai? Le même esprit qui tombe sur les hypocrites tombe sur les chrétiens. La même chose. Mais leur fruit. Est-ce que cela entre, frère? L'évidence du Saint-Esprit en est le fruit. Le fruit de l'Esprit. Bien maintenant, vous dites, je suis une tige, je suis un chardon, je suis une plante, tout comme le blé est une plante. Mais quelle sorte de vie avez-vous? La vie à l'intérieur porte la marque. Toujours argumentant, recoupant, toujours malade et médiocre et tout cela, vous voyez ce que je veux dire? Arrogant, vous voyez, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est la modestie, la patience, la gentillesse, vous voyez, tout cela, vous voyez. Il peut dire, bien, je peux crier aussi fort que vous, béni soit Dieu, le Saint-Esprit tombe sur moi. Ceci peut être très vrai, mais la vie qu'il vit ne prouve pas ce dont il parle, voyez-vous. Il était livré pour commencer. Maintenant, nous arrivons à une grosse question maintenant. Voyez sur l'élection, vous voyez. Hein, aussi c'est, vous devez être cela, vous comprenez cela. Ils étaient des chardons pour commencer. Il était un plant de blé pour commencer. Aussi la sécheresse vint, la pluie tombe sur les justes et les injustes. D'accord? Vous comprenez? Un frère demande, qu'en est-il des fruits d'un prédicateur qui prêche la parole? Le prédicateur, même s'il se tenait là et prêchait la parole comme un archange, vous voyez, il comprendrait les mystères de la Bible et ferait un très bon pasteur, irait, visiterait les gens et toutes ces choses, il pourrait malgré tout être perdu, voyez-vous? C'est son fruit qui le dit chaque fois, frère. Voyez-vous, lui, peu importe combien il est bon ou ce qu'il est, il doit avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Voyez-vous? Maintenant, Jésus n'a-t-il pas dit, plusieurs viendront à moi en ce jour et diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé, prêché en ton nom, et j'ai fait des miracles en ton nom? Il a parlé en langue, donné l'interprétation, les choses du mystère de Dieu et toutes ces choses-là. Il dit, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous ce que je veux dire? Frère Taylor demande, qu'en est-il de l'homme qui apporte le faux message? Je veux dire, il pense qu'il est correct, mais il prêche des choses fausses. Bien, je crois que cet homme est sincère, comme le frère qui est assis ici, voulant retourner à son, recherchant les choses comme cela. Si cet homme est élu de Dieu et que la vérité lui est apportée, il la reconnaîtra. Vous voyez? Mes brebis connaissent ma voix. Vous voyez ce que je veux dire, le frère Taylor? Et est-ce que c'est ce dont vous parlez, voyez-vous? Maintenant, par exemple, dites frère Chris, il dit qu'il était un prédicateur baptiste et il ne savait rien au sujet du baptême du Saint-Esprit, pas plus qu'il connaissait le reste de ces choses, les dons de l'Esprit, et il était un bon et fidèle prédicateur baptiste, voyez-vous? Mais la première chose que vous savez, ceci se présente à lui. Et je crois que chaque enfant de Dieu sera, chaque âge, jettera le filet jusqu'à ce qu'il le prenne. Le royaume ne peut venir jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit accomplie, c'est vrai. Et pas un seul ne périra, vous voyez? Maintenant, vous voyez, c'est la manière. Et le royaume du ciel est comme un homme qui jette un filet dans la mer et le ramène. Lorsqu'il fit cela, il rapporta toutes sortes de choses. Il garda les poissons, et les tortues et les autres furent rejetées dans l'eau. Il le jeta de nouveau, il en prit d'autres, peut-être n'y avait-il qu'un seul poisson. Mais il jettera le filet jusqu'à ce qu'il les ait tous pris. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Mais ce poisson était un poisson au commencement. Il était au service du maître, c'était tout. Il le mit dans un autre étang où c'était mieux, plus clair. Mais il continuait à jeter le filet dans cet étang à grenouilles, jusqu'à ce qu'il attrape toutes les perches qui étaient là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris ce que j'ai dit, frère Taylor? Vous devriez le voir par les vôtres là-bas. C'est bien. Maintenant, a-t-il en tout temps le contrôle sur l'esprit pour ce qui est de quand et comment agir? Oui, monsieur, le Saint-Esprit contrôle. Oui, monsieur, il a le contrôle sur vous, et vous avez le contrôle sur lui, et il ne vous fera jamais faire des choses contraires à l'Écriture. L'Esprit n'a pas de conduite malséante, c'est vrai, d'accord, d'une personne qui vous aime. Oui, nous allons prendre cela, tout est bien, nous allons sauter à une autre ici et voir où nous en sommes. Maintenant, je pense que cela a une base. Maintenant, pendant que je prépare celle-là, y a-t-il une autre question sur cela? Nous le comprenons tous? Nous comprenons comment nous le croyons maintenant? Un frère dit, j'ai une question. Note de l'éditeur. Allez-y! Sur ceci encore? D'accord. Oui, sur celle-là. J'ai comme un peu hésité, mais n'hésitez pas, c'est... Vous parliez de l'homme qui prêchait, s'il ne prêche pas le message que Christ a apporté, et sans égard à ce qui se passe dans son ministère, lorsqu'il vient en contact avec la vérité et la rejette, qu'arrive-t-il alors? Il est perdu. Excusez-moi juste pour une minute pour... En référence à la prédestination ou son ordination pour venir dans le monde. C'est vrai, voyez-vous. Alors, comme il était, il ne devait pas être comme cela. Ils ne devaient pas être comme cela au commencement, vous voyez. Ils s'éloignèrent de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Par exemple, comme ceci, c'est la même chose dans Hébreux 6, voyez-vous. Les gens interprètent tellement mal cette écriture. Ils pensent que c'est impossible. Il dit, c'est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui sont tombés, vous voyez, ils ne le comprennent simplement pas. Il dit, c'est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ont eu part au Saint-Esprit et qui sont tombés soient encore renouvelés et menés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, et il tient pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et il a outragé l'Esprit de la grâce. Bien, pour moi, c'est une révélation, certain. C'est comme Actes 2.38 et Matthieu 29.19. Vous n'avez qu'à le comprendre, voyez-vous. Maintenant, regardez, c'est ici la même chose. Bien, maintenant il parlait aux Hébreux, voyez-vous. Maintenant, lisez tout le chapitre, allez jusqu'où il dit, car c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Maintenant, voici un homme juste comme celui du croyant, sur la ligne de démarcation. Ici, la même chose était ici, l'exemple parfait, je le vois dans ma pensée. Dieu a appelé Israël hors de l'Égypte. Tous ces gens s'avancèrent. Chacun d'eux était délivré, traversa la mer Rouge vers le désert. Est-ce vrai? Quand ils furent prêts et écoutés au message de Moïse, ils commencèrent à marcher. La justification. Ils se retournèrent partir. Ils vinrent à la mer Rouge, le sang, et traversèrent la mer Rouge. Et derrière eux, toute la force des maîtres était étendue, morte. Ils étaient environ 3 jours de la terre promise à ce moment-là, voyez-vous. C'est là qu'ils étaient, moins de 40 000, vous voyez. Ainsi, ils sont là, juste 2 jours les auraient amenés tout bonnement là. C'est ce que je veux prêcher à Phoenix dans quelques jours, à l'assemblée des hommes d'affaires, demeurant sur cette montagne. Mais il les garda là pendant 40 ans, car ils avaient, voyez-vous, ainsi ils viennent à ceci, et regardent en arrière, sanctifiés. Oh, alléluia, loué soit Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Voilà la vieille chose qui une fois me tenait, elle est morte. Ces vieilles cigarettes que j'avais l'habitude de fumer, elles sont parties. La vieille boisson que je buvais est toute dans la mer rouge du sang de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Chacun d'eux monta là pour prendre Canaan. Il traversa le Jourdain. Bien, il prit un représentant de chaque tribu. Est-ce correct? Et il les envoya là-bas. Bien, quelques-uns parmi eux dirent, ah ah ah, nous ne pouvons le faire. Non, nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux, voyez-vous? Maintenant, à quelle sorte d'église prêcherais-je si j'enseignais ce Saint-Esprit et tout cela comme cela? Pourquoi j'aurais des sièges vides? Mes Jean-Méthodistes s'en iraient, mes Baptistes s'en iraient, mes Presbytériens. Laissez-les partir. C'était des boucs pour commencer. Vous voulez des brebis, vous voyez. Voyez-vous, vous n'êtes pas des pasteurs de boucs. Soyez pasteurs de brebis. Quelle est l'utilité d'être pasteur de boucs s'il y a des brebis qui ont besoin de pasteurs, voyez-vous. Et ici, vous êtes de ce côté, vous voyez. J'ai toujours dit que je prêcherai à 4 poteaux, mais que je prêcherai la vérité à l'église. Oui, monsieur, venez ici. Mais voyez maintenant, qu'a-t-il fait? Ils reviennent, et Josué et Caleb, 2%, où est-ce le pourcentage? 2/12 d'entre eux, 2/12, bien ils étaient 12. Ce serait 2/12, 2/12 du groupe le crut. Ils partirent pour la terre promise, dirent, oh, c'est la bonne place. Josué et Caleb, ils se fièrent à la parole. Elle dit, c'est à vous, ils y allèrent. Ils ramenèrent un gros lot de raisins, ils revinrent en traînant cela derrière eux comme cela. Venez, les amis, c'est un endroit merveilleux, mangez-en, vous voyez, des raisins gros comme ça. Et ces hommes, ils les avaient vus, ils dirent, nous ne pouvons le faire. Lorsqu'ils revinrent, ils dirent, non, frère, ce Moïse nous a amenés ici dans le désert. Ce Saint-Esprit, vous voyez qu'il représentait, nous a amenés ici dans le désert, et nous sommes ici, notre ministère est ruiné, et nous ne pourrions pas faire une chose comme cela. Retournez, vous voyez, ils ont été éclairés, justifiés, sanctifiés, vous voyez, ils viennent près de cet autel et regardent à la terre promise. Nous qui furent une fois éclairés et ont été, avons goûté les dons célestes, voyez, et avons goûté, ils le ramenèrent. Nous voyons que c'est correct, nous le voyons actuellement, goûter aux dons célestes, ont eu part à cette chose, vous voyez, ce Saint-Esprit y eurent part. C'est bon, les amis, regardez cet homme. Pourquoi? Je sais qu'il était aveugle, maintenant il peut voir. Regardez ce vieux, oh, qu'est-il arrivé à ce gars-là? Qui que ce soit qui a enseigné ce jeune sans éducation là-bas, il se tient avec le feu dans le monde, voyez-vous? Et alors, s'éloigner, voyez, et se renouveler eux-mêmes, retourner à la repentance, retourner prêcher la repentance, au lieu de ce qu'ils prêchaient en premier, vous savez, au sujet de poser de nouveau le fondement des œuvres mortes, à la repentance et ainsi de suite. Nous le ferons, Dieu vous l'a envoyé. Voyez, nous ferons cela, nous retournerons et poserons cette fondation de nouveau alors, et retourner à la repentance eux-mêmes, se repentir d'avoir été là. Je regrette d'avoir déjà été là. Et tenir pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et avoir outragé l'Esprit de la grâce, il est perdu, frère. C'est tout. Il est fini, vous voyez? Bien, maintenant, c'est impossible pour un enfant élu de faire cela. Il ne fera pas cela. Mes brebis connaissent ma voix. S'ils sont appelés à Canaan ou ailleurs, ils y vont. Voyez-vous? Mes brebis connaissent ma voix. Un frère demande, et ils doivent croire acte 2.38 aussi, n'est-ce pas, note de l'éditeur. Ça prendrait cela, chaque parcelle de l'écriture, prenez tout, c'est exactement vrai, frère. Y a-t-il deux sortes différentes de langues dans la Bible? Y a-t-il une différence dans les langues parlées dans les prières privées et dans l'église où l'interprétation est requise? Au jour de la Pentecôte, les langues furent comprises par des hommes de différentes nations, mais dans 1 Corinthiens 14.2, des langues inconnues parlées à Dieu, non à l'homme. 1 Corinthiens 13.1 indique un tel homme, C.O.R., je suppose que c'est 1 Corinthiens 13 qui est, un tel homme et les autres aux anges. Oh oui, voyez-vous, bien maintenant, frère, qui que vous soyez, vous avez répondu vous-même, voyez-vous, vous voyez, y a-t-il deux différentes langues? Il y a plusieurs langues différentes, voyez-vous. Y a-t-il deux langues différentes dans la Bible? Deux langues différentes. Au jour de la Pentecôte, chaque nation sous le ciel était là avec ses langues, voyez-vous? D'accord. Et y a-t-il une différence dans la langue parlée dans la prière privée et dans les églises où l'interprétation est requise? Oui. Paul a parlé ici dans les Corinthiens, où vous demandiez ici, il a dit, il y a des langues d'anges et des langues d'hommes. Maintenant, les langues d'anges, c'est quand un homme prie pour lui-même. Pour lui-même est Dieu seul, mais quand il parle un langage, c'est pour être interprété dans l'Église, pour l'édification de l'Église. Celui qui parle dans une langue inconnue s'édifie lui-même, mais celui qui parle, celui qui prophétise, édifie l'Église. Aussi il dit, j'aimerais mieux parler 5 mots bien compris que 10 000 mots dans une langue inconnue, excepté s'il y a interprétation. Alors, c'est de parler par prophétie qui est édifiant. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il y a deux différentes langues, les hommes et les anges, voyez-vous? Et Paul dit, même si je parle les langues des hommes et des anges, voyez? Les deux, hommes et anges, les deux langues, celles qui ne peuvent. Maintenant, c'est là que les pentecôtistes, les gens de l'évidence des langues, qui m'ont dit, maintenant, frère Branham, vous êtes tout mélangé. Je dis, bien, si vous l'avez selon acte 2.4, alors tout le monde vous a entendu parler dans le langage de leur naissance. « Oh, dit-il, non, non. » Je dis, « Certainement, oui, monsieur. » Il dit, « Maintenant, frère Branham, vous êtes tout embrouillé. » Il dit, « Vous parlez de... » Il dit, « Il y a les langues des anges. C'est l'ange du Saint-Esprit qui descend et vous parle. » Maintenant, cela semble bon, vous voyez. Il semble que ce pourrait être beaucoup de vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Quand Satan dit à Ève, « Certainement, vous ne mourrez pas. » Il lui dit beaucoup de vérité, mais ce n'était pas la vérité, voyez-vous. Maintenant, il dit les hommes et les anges. Et l'ange dont il parlait était... Maintenant, allons voir comment ça ne danse pas avec les Écritures, voyez-vous? Ce que je veux dire, pardonnez-moi, je ne voulais pas dire danser avec les Écritures. Je voulais dire coopérer avec les Écritures ou concorder avec les Écritures est le meilleur mot. Maintenant, l'homme qui parle la langue des anges, il dit, ce sont les langues du Saint-Esprit que... Il dit maintenant quand ils reçurent le Saint-Esprit. Je dis, quand et où l'avez-vous reçu? Bien, il me dit immédiatement le lieu, la minute et l'heure. Je ne doute pas de ce qu'il dit, voyez-vous. Je ne suis pas son juge, voyez-vous. Il dit, c'est là que je l'ai parlé. Il connaissait exactement l'endroit. Il dit, quelque chose m'est arrivé. Je dis, je le crois, voyez-vous. Mais encore, ce n'est pas l'évidence du Saint-Esprit pour toi, fiston. Oh oui, il dit, c'était cela. Eh non, il dit, maintenant regarde. Regardez, je veux vous dire quelque chose, frère. Je dis, est-ce que les gens dans l'assemblée, dans cette église-là, à Indianapolis, où vous dites que vous l'avez reçu, est-ce que ces gens vous ont entendu parler en anglais, leur parlant de la résurrection et de la puissance de Dieu et tout le reste? Il dit, maintenant regardez, non, j'ai parlé en langues inconnues. Je dis, vous ne l'avez jamais eu selon Actes 2-4, car il n'y eut aucun mot inconnu. Nous entendons chaque homme dans notre propre langage. Oh, dit-il, frère Branham, je vois où vous êtes embrouillé. Il dit, voyez, il dit, il y a des langues qui sont des langues d'anges quand vous recevez le Saint-Esprit. Il dit, alors vous parlez en langue. Et personne n'a besoin d'interpréter cela. C'est le Saint-Esprit qui parle, voyez-vous. Mais alors, vous avez le don des langues, et cela doit être interprété. Je dis, alors, vous avez la voiture devant le cheval. Au jour de la Pentecôte, ils avaient la voiture devant le cheval. Avant qu'ils eurent le Saint-Esprit des langues inconnues, ils parlèrent en langues qui étaient entendues, voyez-vous. Il y a deux langues différentes. Les langues des anges, c'est l'homme dans une prière privée, quelque part là-bas, qui parle à Dieu, parlant à Dieu en langues angéliques. Je pourrais maintenant vous amener un cas, mais je n'ai pas le temps. Vous souvenez-vous lorsque cette femme s'est amenée à l'auditorium, où le docteur Alexander Dowie, qui vient de Zion, vous souvenez-vous de ce qui m'arriva là-bas? Et Billy vint vers moi, là-bas, pour me ramener à la réunion, et je dis, Billy, retourne là-bas. Il me dit, pourquoi pleures-tu? Est-ce que quelqu'un est venu ici? Je dis, non monsieur, mais tu retournes et dis à frère Baxter de prêcher ce soir. Et je me suis agenouillé sur le plancher, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et soudainement, j'ai entendu quelqu'un à la porte, parlant d'autres langues. Je pensais que c'était de l'allemand. Je pensais bien, ce gars est venu lui donner un. Je m'arrêtais, vous savez, je priais, j'écoutais celui qui se tenait là comme cela, je pensais, bien, comment ce gars-là va-t-il comprendre cela? Car je savais que l'homme qui tient ce motel, environ 5 000 à l'extérieur de la ville, vous savez, j'ai dû aller là, il y avait tellement de gens en ville. Je me dis, c'est étrange, Et je me dis, bien, oh, avez-vous jamais entendu cela? Ce gars ne prend même pas le temps de respirer. Voyez, je pensais cela. Il parlait tellement vite, bien. Je me dis, bien, quoi? Mais c'était moi. Aussi, je ne bougeais pas d'un pouce, il ne dit plus rien. Je ne bougeais toujours pas. Après un certain temps, il s'arrêta de parler. Et lorsqu'il le fit, j'aurais pu traverser une troupe et sauter par-dessus un mur. Et je sortis et Billy passait la barrière. Je lui criais, attends une minute. Il revint. Il avait bu un soda et il me dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, attends juste une minute, je vais avec toi. Je me lavais le visage très rapidement. Il me dit, qu'y a-t-il? Il sait que c'est mieux de ne pas me parler en allant à la réunion. Il répéta, qu'y a-t-il? Je dis, rien du tout. Allons juste à la réunion. Il s'en alla à l'assemblée. Frère Baxter était assis là et jouait. Rien entre mon âme et le Sauveur. Il entra et dit, vous, j'ai pensé que tu ne viendrais pas. Je dis, je montais, commençais à prêcher. Lorsque j'eus terminé, au moment où j'arrêtais de prêcher, eh bien, oh, c'est comme si quelqu'un avait pris l'arrière de l'édifice, en arrière de ce grand auditorium, avait couru un fil de micro là en arrière, et il y avait une femme qui marchait de haut en bas dans l'allée, criant aussi fort qu'elle le pouvait. Je finis par découvrir, elle avait la tuberculose, elle était partie de Twin Cities, Saint Paul. L'ambulance ne voulait pas l'amener, car ils avaient peur que ses poumons éclatent. Le docteur avait dit, entre autres, ses poumons sont comme des rayons de miel, s'ils éclatent, elle est morte, ce serait tout. Et un certain saint prit une vieille Chevrolet 38, enleva le siège arrière, l'installa là-dedans, et prit la route pour venir ici. Ils frappèrent une petite bosse ou quelque chose d'autre, et elle eut une hémorragie, se mit à vomir le sang. Ça lui sortait par le nez et tout, partout. Elle faiblissait, et finalement, elle ne voulait pas mourir dans la voiture. Elle leur demanda d'arrêter de la déposer sur la bande de gazon. Ils la sortirent. Ils étaient tous au-dessus d'elle et priaient. Soudainement, elle dit que quelque chose l'a frappée. Elle se leva. Elle partit sur la route en criant aussi fort qu'elle le pouvait. Elle était ici à l'église, marchant de haut en bas de l'allée. Je dis, « Sœur, quand est-ce arrivé? » Juste au même moment où le Saint-Esprit parla à travers moi. Qu'était-ce? Des dons. Qu'était-ce? Cette vieille mère opossum, étendue par terre à la barrière pour que l'on prie pour elle. Un animal ignorant, même pas d'âme, qui ne connaît pas le bien du mal, voyez, n'a pas d'âme, elle a un esprit, il n'y a pas d'âme. Qu'était-ce? Le Saint-Esprit faisant une intercession. Dieu envoya un don sur la terre, et le Saint-Esprit ne pouvait plus attendre, aussi il vint, m'investit et commença à se parler à lui-même comme cela, se parlant à lui-même, s'intercédant lui-même. Et comme nous avons vérifié le temps à cette même minute où ils la déposèrent sur le gazon,
Il voulait voir, car il savait qu'elle se mourait. Il devait dire l'heure de sa mort. C'était à la même minute que le Saint-Esprit tomba sur moi et commença à faire intercession, à s'exprimer des mots. Je ne pouvais les comprendre, voyez, comme cela, s'exprimant. C'est le Saint-Esprit qui parle. Je n'avais pas à savoir cela, voyez. Ce n'était pas nécessaire. C'était peut-être son ange. Nous allons voir cela dans quelques minutes, vous voyez. Son ange qui vint là et donna ce message, vous voyez. Maintenant, c'est correct, il y a deux langues différentes. L'une d'elles pourrait être, y a-t-il une question? D'accord, essayons de savoir ce que Dieu dit, vous voyez. Maintenant, je dirais, frère Stryker, en regard de cela, essayez de ne pas penser à cela, vous voyez. Laissez simplement l'Esprit parler par lui-même. N'essayez pas de le comprendre, vous voyez. Abandonnez-vous encore plus à l'Esprit, voyez-vous. Parce que si vous essayez de dire, hey, qu'est-ce que vous dites? Est-ce à moi de vous parler? Voyez, ils essayent. Maintenant, est-ce correct pour une personne de parler en langue en priant pour les autres à l'autel? Espace blanc, non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Laissez-moi voir ce que j'ai écrit ici. Je dois regarder. S'il n'y a pas d'interprète, qu'ils gardent leur paix. Dans 1 Corinthiens, le 14e chapitre et le 28e verset. Qui a une Bible? Un frère lit les écritures suivantes, note de l'éditeur. S'il n'y a pas d'interprète, qu'il garde sa paix dans l'église. D'accord. Maintenant, s'il n'y a pas d'interprète en tout temps dans l'église, n'importe où dans l'église, gardez le silence s'il n'y a pas d'interprète. À l'autel, la seule chose, très souvent, vous entendez des personnes qui vont à l'autel, s'agenouiller et frapper quelqu'un dans le dos et alors parler en langue eux-mêmes, parlant comme s'ils essayaient de leur montrer comment faire, vous voyez? C'est un peu comme amener le Saint-Esprit artificiellement. Essayez aux gens. Ne faites pas cela, voyez-vous. La chose à faire, c'est de laisser cette personne tranquille. Laissez-les lever leurs mains jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, voyez. Voyez-vous. Non, ils devraient demeurer en silence dans l'église, voyez. Un frère demande, frère Branham, note de l'éditeur. Oui, frère. Si une personne est dans un service, et à la fin du service, habituellement, n'importe quand un message vient, la personne qui a le don, ils sont capables de le dire, ou sont-ils capables de faire la différence entre la langue des anges et le message qui vient? Maintenant, voyons, maintenant, espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. S'ils entrent et écrivent la chose, la déposent sur mon bureau, voyez-vous, et je l'aurais lu comme ceci. Mais quand j'entre dans cette pièce-là, frère, c'était le tout, voyez-vous. Et avant qu'ils entrent, ils se tiendraient là, et chacun en silence. Et la sœur serait là, sœur Irène, là, à l'autel, elle jouerait, au pied de la croix. Les huissiers se promèneraient, s'ils voyaient quelqu'un parler, ils diraient, chut, chut, chut. Et les enfants seraient assis vraiment gentils, on leur dirait, c'est la maison du Seigneur, chérie. Tu ne devrais pas, tu dois bien te conduire dans la maison du Seigneur. Et l'homme, la femme, tout le monde suspendrait leur manteau et le reste, quelqu'un ici à la porte pour les recevoir dès que la porte s'ouvre, que tout soit prêt, mettre l'église correcte, que chacun se prenne un siège et s'asseye. Et j'étais dans la pièce en prière, j'aurais été là depuis 2 ou 3 heures de l'après-midi, personne pour me déranger, je serais entré là avec mon message. Et alors juste au moment de commencer, le directeur des cantiques commençait un chant. Allons à tel numéro comme « Au pied de la croix où mon sauveur mourut ». Continuant comme cela, vous savez, procéder comme cela, alors qu'on avait chanté environ 2 spéciaux, nous ne mettons jamais trop de temps pour les chants. C'est la parole. S'ils ont le chant d'un hymne, c'est pour cela qu'ils ont ces périodes de chant. La parole est la chose principale pour laquelle les gens viennent ici. C'est une maison de correction. Et alors peut-être que les associés comme frère George, frère Georgie Ark, feront une prière, et alors nous aurons un spécial comme un solo ou quelque chose comme cela. Et alors si c'était le temps, quelqu'un viendrait me dire que c'est le temps de venir. Si c'était d'accord, je m'avancerais avec une onction fraîche, voyez-vous. Bien peut-être que cette semaine-là, ils auront eu une réunion dans l'église, eurent leur propre réunion. Peut-être avant que le service commence ce soir-là, ils eurent une assemblée. Et c'était ici. Je l'avais dit et je dis, c'est écrit sur ce papier qu'il va y avoir une tempête sur cette région la semaine prochaine, ou quelque chose, vous savez, quelque chose comme cela va arriver. C'était écrit, cela a été parlé en langue, interprété par 2 saints de l'église ici, frère un tel et un frère un tel, 2 témoins de cela en ont pris note, ils ont signé leur nom ici, et ce fut noté que c'est de Dieu, c'est un tel et un tel. C'est ma première partie. Alors je dis, d'accord, nous nous préparerons pour cela, que chacun prie pour cela, voyez-vous. Maintenant, y a-t-il une requête spéciale, tout le monde? Vous savez, prions. Ils se levèrent, prièrent, directement à la parole, directement sur la parole. Alors immédiatement après le service, l'appel à l'autel est fait, voyez-vous. Nous utilisions beaucoup l'appel à l'autel. L'appel à l'autel amenait les gens à l'autel. Et alors que cet appel à l'autel était terminé, peut-être qu'alors je prierais pour les malades. Juste quelque chose comme cela. Le service était complété car l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est à cela que je pensais. Vous souvenez-vous la nuit où j'ai eu la vision, quand l'ange a marché vers moi? J'étais assis là dans la chambre, réfléchissant, environ tard dans la nuit. Je disais, l'esprit des prophètes est... Comment cela se peut-il? Je regardais la lumière qui clignotait, et le voilà qui s'avance directement vers le lieu où je me tenais. Voyez-vous, c'est là qu'il m'a commissionné, vous voyez, pour ces réunions. Maintenant, non, c'est la personne qui donne le message. C'était votre question, je crois. La personne qui donne le message saurait-il que c'était l'ange du Seigneur ou non? Un frère dit, maintenant la question était, vous dites, il y a les langues des anges, notre l'éditeur? Espace blanc non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Je croirais qu'il ne le peut pas. Maintenant, c'est de cette manière que nous l'avons maintenant. Et vous voyez, lorsque nous faisons de la bonne manière, où nous avons une réunion régulière spécialement pour cela, laissez... Vous voyez, chacune de ces choses est un ministère. Disons, vous parlez en langue et il interprète, il parle en langue, il prophétise. Vous n'êtes que des laïcs ici, mais vous avez un ministère et vous avez quelque chose. Vous essayez d'aider le royaume de Dieu. Y faire quelque chose, vous voyez, et ainsi vous les frères, vous vous rassemblez. C'est pourquoi les pasteurs comme ceux-ci, nous nous rassemblons, nous avons quelque chose en commun. Vous les frères, vous assemblez et étudiez les Écritures, et parlez en langue et interprétez, donnez le message, vous voyez. Et maintenant, si cet homme, s'il a été à la réunion, il a un don de parler en langue, bien il se rend à la réunion, il parle en langue, mais personne n'interprète, l'interprète ne le comprend pas. Un frère demande, diriez-vous maintenant que ces personnes édifient le corps, mais que les offices tels que pasteurs, enseignants et autres perfectionnent le corps, note de l'éditeur? Oui, c'est leur raison d'être, la perfection, voyez-vous. Ceux-là sont donnés pour la perfection, vous voyez. L'esprit est donné pour perfectionner, la perfection de l'Église. Maintenant, ces gens qui parlent, ils sont remplis de l'esprit, il n'y a pas de doute. Maintenant, il y a un homme, peut-être qu'il parle ici dans l'assemblée. Maintenant, il se trouve devant les interprètes, vous voyez, et voilà que personne ne donne l'interprétation. Il y a quelque chose de faux. L'interprète n'y peut rien, vous voyez, et il peut avoir un réel don de parler en langue, mais il n'a pas le don des langues, un langage, vous voyez. Et alors, la chose qu'il doit faire, quand il emploie cette langue, qu'il n'essaye pas, s'il essaye de s'extérioriser de nouveau, c'est un présomptueux. Il est faux pour commencer, vous voyez, il n'ira jamais nulle part, vous voyez. Vous pensez, béni soit Dieu, ce gars ne veut pas interpréter mes langues. C'est tout, ce n'est pas grave. Maintenant, voyez, il est faux pour commencer. Juste là, il a le mauvais motif et le mauvais objectif, voyez-vous. Mais s'il est humble et doux et dit, peut-être que le Seigneur ne me veut pas à son service, mais voilà, il bénit mon âme, il veut m'édifier pour que je sache que je suis proche de lui quand je parle en langue. Ainsi, je vais aller marcher dans le verger. Oh Dieu, et la puissance commence à tomber sur moi, et je commence à parler en langue. Je reviens rafraîchi, vous voyez. Oh, tu me parles, Seigneur, tu me gardes en ligne en me parlant en langue, voyez-vous. Et Seigneur, aujourd'hui, j'aurais dû parler à cet homme. Pardonne-moi cela, Seigneur. J'ai négligé quelque chose que je devais faire. Père, pardonne-moi. Et directement, le voilà parti à parler en langue. Ah, ouh, je me sens mieux à ce sujet maintenant. Vous voyez, c'est d'accord. Vous voyez, votre don n'est pas pour l'Église, mais c'est pour vous édifier. Celui qui parle dans une langue inconnue, s'édifie lui-même, voyez-vous. Maintenant, s'il n'y a pas d'interprète alors, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, c'est cela. Aussi, il ne saurait pas lui-même, mais il saurait lorsque c'est faux. Maintenant, vous n'avez qu'à laisser aller cela ensemble, vous voyez. C'est la seule chose à faire jusqu'à ce que vous puissiez les séparer. C'est pour cela que je pense... Expliquez 1 Corinthiens 14:5. Qui l'a très vite? L'un de vous l'a? Espace blanc non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Un frère lit 1 Corinthiens 14:5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. D'accord. Je voudrais plus, je désire que tous parlent en langue. Paul essaie de dire à son église, quelques-unes de ces églises n'étaient pas grosses, même pas autant de membres que j'ai ici, c'est vrai. quelquefois 10 ou 12. Voyez-vous? Voyez-vous? Maintenant, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Ceci vous surprend. Vous voyez qu'en l'église, dans Acte 19, je crois, il y avait environ 12 de membres, voyez-vous? Juste très petites, des missions, vous voyez? Aussi, ce fut toujours dans la minorité, vous voyez? Et je pense qu'il le disait, il y en avait ce nombre, 12 d'hommes et de femmes, vous voyez? Maintenant, il dit, je voudrais que vous parliez tous en langue. Je souhaiterais que vous parliez tous, que tous parlent en langue. Que vous soyez si remplis du Saint-Esprit que vous parleriez en langue. Mais il dit, je préférerais que vous prophétisiez, excepté s'il y a interprétation, s'il y a une interprétation. Comment cela se lit-il? Est-ce que vous l'avez correctement? Lisons-le de nouveau maintenant. Écoutez, un frère commence à lire 1 Corinthiens 14:5. Je désire que vous parliez tous en langue. Maintenant, arrêtez une minute. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Je préférerais que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Maintenant, attendez une minute. Maintenant, qu'est-ce qui est plus grand que celui qui prophétise? C'est là que vous vouliez que j'arrête. Un frère disait, justement, c'était indifférent. Oui, voyez-vous, oui, voyez-vous. Maintenant, disons par exemple que nous avons 2 personnes non informées parmi nous ce soir. Ils ne savent rien à ce sujet. Et j'entre et nous commençons ici dans cette réunion. Et vous commencez à parler en langue, chacun l'un après l'autre, et parlez en langue. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Des hommes ignorants se disent, ils sont tous fous, voyez-vous? Mais si un prophétise, vous voyez, alors il dit quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Maintenant, continuez, lisez le reste. Le frère continue, à moins que ce dernier interprète. Et voilà! Maintenant, à moins, vous voyez, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète. Maintenant, continuez, vous voyez, pour que l'Église en reçoive édification. Vous y êtes, vous voyez, l'Église est édifiée. Maintenant, d'autres mots, ceux qui ne sont pas informés, qui sont ignorants, vous êtes assis parmi nous ce soir et nous avons cette réunion. Nous sommes tous ici cherchant à savoir au sujet du Seigneur et voilà que vous vous mettez à parler en langue. Personne ne dit rien et commence subitement à parler en langue. Paul dit que vous parliez tous en langue, ce serait bien. Mais si quelqu'un prophétisait, se levait et disait, « Ainsi dit le Seigneur, il y a un homme assis ici, c'est un étranger. » Son nom est John Doe, il vient d'un certain endroit, il a laissé sa femme et 4 enfants là-bas, il est ici ce soir parce qu'il cherche de l'aide, il était chez un médecin à Memphis, Tennessee, et il continue, le docteur lui a dit qu'il avait un cancer du poumon, il se meurt. Il dit, si tous parlent en langue et que les ignorants viennent parmi vous, il dirait, n'êtes-vous pas tous fous à lier? Mais si un prophétise et révèle le secret du cœur, alors ils tomberont à genoux et diront, vraiment, Dieu est avec vous. Vous voyez, c'est, bien maintenant vous parlez en langue, et quelqu'un interprète, il dit, ainsi dit le Seigneur, en interprétant, il y a un homme assis au milieu de vous, il a laissé sa femme à Nashville aujourd'hui, ou Memphis, ou autre, et il a le cancer du poumon, il est venu ici, et son nom est John Dewey, et ainsi de suite, voyez-vous, à moins qu'il n'interprète. Voyez, alors il édifie, voyez-vous. Alors ce gars-là sortira et dira, laissez-moi vous dire quelque chose. Ne me dites pas que Dieu n'est pas avec ces gens-là. Certainement, ces gens ne me connaissent pas du tout, voyez-vous. Aussi, nous voulons les dons de prophétie, plus les dons de parler en langue. Mais en parlant en langue, vous voyez, vous devez avoir l'interprétation. Et alors, lorsque c'est interprété, c'est prophétisé, voyez-vous. C'est une prophétie. Maintenant, j'ai cette question ici. Nous y venons aussi vite que possible. Espace blanc non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Matthieu 18, 10. Un frère lit Matthieu 18, 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. D'accord. Maintenant, le frère, qui que vous soyez, naturellement, il n'y a pas de nom, juste un petit billet, voyez, qui a dit cela. Maintenant, vous pouvez prendre cela de 2 manières, vous voyez. Mais je pense que l'interprétation, si vous me demandez seulement d'expliquer cela, la manière dont je l'interprète est comme suit. Maintenant, vous allez à 2 Corinthiens 5:1, quelqu'un. Cela se lit, si cette tente terrestre est détruite, vous savez ce dont il s'agit, vous voyez. Si cette tente où nous habitons sur cette terre est détruite, nous en avons une autre déjà, vous savez, qui attend. D'accord? Maintenant, si vous remarquez, dans Matthieu 18, 10, Il parlait de prendre les petits-enfants. Ils étaient de petits-enfants, des tout-petits, 3 ou 4 ans. Les prenait dans ses bras. Il lui amenait des enfants. Enfant signifie petit. Un enfant est un petit être très jeune, un tout-petit, pas un nourrisson, juste entre ce dernier et un adolescent, voyez-vous. Ils ne sont pas encore responsables d'eux-mêmes. Maintenant, il dit, faites attention de ne pas mépriser. Si vous prenez la vraie interprétation de ce mot, c'est maltraiter, voyez, de maltraiter un de ces, maltraiter un enfant. Vous ne devriez jamais faire cela. Ce sont des enfants. Ils ne savent pas, voyez-vous. Et maintenant, remarquez, cela dit, car leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, voyez. En d'autres mots, leurs anges, leurs messagers, leurs corps angéliques, dans lesquels ils iraient s'ils mouraient, sont toujours devant la face de mon Père qui est dans le ciel, voyez-vous. Maintenant, si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons un qui attend déjà. Est-ce vrai? C'est un corps. Regardez ici. Si j'avais le temps de voir cela, naturellement, je sais que je ne l'aurais pas. Mais voici, laissez-moi vous le montrer afin que ce soit sur la bande. Vous l'aurez de toute manière. Regardez, une nuit, Pierre était en prison. Ils avaient eu une réunion de prière à la maison de Jean-Marc, vous voyez. Et ainsi l'ange du Seigneur vint, cette colonne de feu, une lumière descendit, et Pierre pensait qu'il rêvait, quand il vit la lumière venir vers lui. La Bible dit, c'était une lumière, voyez-vous, et je crois que c'est la même chose pour nous. Vous voyez, il descendit. Et si nous avons le même trouble, peut-être que la même chose se produirait, voyez-vous. Elle vint là et il lui dit, « Viens, suis-moi. » Aussi Pierre pensa, « Je rêve maintenant. Je vais voir ce que ce rêve veut dire. » Ainsi il marcha au-delà des gardes et il pensait, « Maintenant nous passons, la porte s'ouvre d'elle-même. » Il continua la porte suivante qui s'ouvrit d'elle-même. Aux barrières de la ville, elle s'ouvre d'elle-même. Et il pensait toujours qu'il rêvait. Ainsi, lorsqu'il se trouva au dehors, il se dit, « Bien, je suis libre. Alors j'irai simplement à la maison de Jean-Marc pour fraterniser. » Les autres étaient là. « Ô Seigneur, envoie ton ange et délivre Pierre. » Et vers ce moment-là, quelque chose arriva. Frère Branham frappe, note de l'éditeur. La petite demoiselle va répondre à la porte et dit, « Qui est là ?» Lève le petit treillis et dit, « Eh, c'est Pierre !» Alors elle retourne et leur dit, « Eh, vous pouvez arrêter de prier maintenant, Pierre est là !» Frère Branham frappe encore, note de l'éditeur. Il dit, « Ouvrez que j'entre !» Et aussi il dit, ainsi il retourna, il dit, « C'est Pierre à la porte !» Oh, ils dirent, « Ils lui ont déjà coupé la tête, c'est son ange à la porte, vous voyez, son tabernacle céleste, il l'avait reçu, que celui de la terre soit détruit, parce qu'il attendait dans le ciel qu'il vienne le prendre. » Ce que j'ai vu l'autre jour dans cette vision, vous savez, à traverser. Si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons un autre. Et ces petits êtres qui n'ont pas encore péché, vous voyez, quand un bébé est formé dans le sein d'une mère, bientôt, comme c'est mis là, voyez-vous, mais premièrement, c'est un esprit. Et comme cet esprit commence à s'envelopper de chair, un petit germe de vie commence à se construire en chair, et aussitôt qu'il tombe de son... Maintenant, dans l'utérus, c'est petit, tremblant, ce sont des muscles qui s'agitent, nous savons cela, ce sont des cellules. Comme lorsque vous prenez un crin de cheval, le mettez dans l'eau, il va se plier, se mouvoir, si vous le touchez, il va sauter, c'est comme cela qu'est un bébé. Mais aussitôt qu'il est né dans ce monde, et prend sa première respiration, il devient une âme vivante, voyez-vous. Car aussitôt que le corps terrestre est né, il y a un corps céleste ou corps spirituel pour le remplacer. Et aussitôt que ce corps est abandonné, il y a un tabernacle céleste qui l'attend. Le tabernacle terrestre est détruit, et il y a un tabernacle céleste qui l'attend. Juste aussitôt que le bébé est arrivé sur la terre dans la chair, il y a un corps spirituel attendant pour le recevoir. Et aussitôt que le corps naturel est détruit, il y a un corps spirituel qui l'attend là-bas, voyez-vous? Une théophanie. C'est comme cela qu'on l'appelle, vous voyez? Une théophanie. Un frère demande, « Bien, maintenant, ce corps est-il temporaire en attendant la résurrection de ce corps, note de l'éditeur ?»« Oui. Voyez-vous, oui, oui, monsieur. » »« C'est la condition dans laquelle nous allons vivre jusqu'à la résurrection de ce corps ?»« C'est vrai, voyez-vous. Ce n'est pas encore révélé au Fils de l'homme. Je sais que je l'ai vu, voyez-vous, mais je ne sais pas encore quelle sorte de corps c'est. Mais je pourrais les toucher juste comme je peux toucher votre main ou autre chose. Naturellement, ceci est sur bande. » Et vous pourrez l'écouter plusieurs années après mon départ, vous voyez. Mais quoi que ce soit que c'était, vous voyez, je touchais ces gens et je les prenais dans mes bras et ils étaient réels, aussi réels que vous pouvez l'être. Mais ils ne mangeaient ni ne buvaient. Il n'y avait pas d'hier ni de demain. Vous voyez, c'était l'éternité. Et maintenant, quand ce tabernacle, ils partirent de là dans ce corps, ils revinrent à la terre, et ce type de corps qu'ils avaient devint immortel. La poussière de la terre, d'une manière ou d'une autre, s'amassa dans cette théophanie qui de nouveau redevint humaine. Ils ont dû manger comme auparavant dans le jardin d'Éden, voyez-vous. Mais si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons un qui attend déjà. Ainsi, ces petits-enfants qui n'avaient pas péché, vous voyez, pas encore péché, leurs anges, leur corps, celui dans lequel Pierre était revenu, vous voyez, attendaient devant la face de mon Père qui est dans les cieux. C'est qu'ils sont toujours devant lui. Un frère dit, mais c'était un peu difficile lorsque Jésus a dit dans les premiers moments de sa résurrection, « Ne me touche pas, il n'était pas encore monté au ciel. » Et alors, quand il vint dans la chambre où était Thomas, il dit, « Avance et mets ta main dans mon côté. » Note de l'éditeur. C'est vrai, il n'était pas encore monté. Et la différence entre les deux, au premier, il dit, « Ne me touche pas. » Et à Thomas, il dit, « Avance. » Il n'était pas encore monté, voyez-il, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est vrai, vous voyez, il ne devait pas être touché jusqu'à ce qu'il, après sa résurrection, il était parti de la terre, vous voyez, il était sorti de la terre et marchait au milieu des hommes, mais il n'était pas encore monté. Il dit à Marie, il dit, ne me touche pas, elle dit, Rabboni, il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Et alors, cette nuit-là, après qu'il fut ressuscité d'entre les morts et eut été devant Dieu, il revint, et alors il invita Thomas à venir toucher son côté. Vous voyez, il avait été devant Dieu, c'est vrai. Très bien. Maintenant, dans 1 Corinthiens 14, recherchez la charité et aspirez aux dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. Webster dit « prophétiser pour dire les événements à venir spécialement par inspiration divine ». C'est ce que le frère a demandé. Un message peut-il être appelé prophétie s'il ne dit pas des événements à venir? Non, monsieur. La prophétie est pour prédire, voyez-vous? D'accord? Maintenant, 1 Corinthiens 14, 27. Je crois que chaque message devrait être interprété et que pas plus de 3 messages en langue pourraient être donnés dans le même service. Ce sont les Écritures. J'ai cela écrit ici. Naturellement, nous ne sommes pas familiers avec cela, et nous savons cela, voyez. Oui, monsieur, ce devrait être seulement en série de 3. C'est dans 1 Corinthiens 14 aussi, voyez-vous. C'est vrai, série de 3. Maintenant, vous surveillerez cela dans vos réunions, frères. Maintenant, vous trouverez que cela arrive. Vous découvrirez que beaucoup de personnes s'embarquent dans cela. Et ne dites pas qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit maintenant. Mais vous voyez, Paul est descendu pour remettre l'église des Corinthiens dans l'ordre. Nous savons tout cela, n'est-ce pas? Il devait la mettre à l'ordre, et il a dit, « Toutes choses doivent être faites convenablement et dans l'ordre. » Maintenant, si vous avez remarqué, Paul, lorsqu'il les rencontrait, il avait toujours des problèmes avec l'église des Corinthiens. Il n'a jamais rien dit à ce sujet aux Éphésiens. Il pouvait leur enseigner la sécurité éternelle. Il n'y a rien au sujet de la sécurité éternelle dans l'église des Corinthiens. Ils étaient toujours des bébés, ils essayaient. L'un avait à parler en langue, l'autre un psaume, n'est-ce pas vrai, voyez-vous? Et si vous laissez votre congrégation commencer de cette manière, comme Martin Luther, il devint si rempli de l'esprit qu'il parlait en langue. Il dit dans son journal, il dit, j'ai parlé en langue. Il dit, mais si j'enseigne cela à mes gens, il dit, ils vont rechercher les dons au lieu du donateur. C'était vrai, vous voyez, ils rechercheront les dons plutôt que le donateur. Et c'est ce que les gens reçoivent, et ils deviennent troublés, et enflés lorsqu'on les laisse parler en langue ou autre chose du genre. Et si ce n'est pas de Dieu alors, ce sera en pure perte. Maintenant, les églises modernes refusent le tout, mais nous ne le faisons pas. Nous croyons que ce sont des dons de Dieu, et mis là par l'Esprit de Dieu. Que pensez-vous de cela, frère Roy? C'est vrai, oui monsieur, mis dans l'église, cela appartient à l'église. Le don de parler en langue est à sa place, là, vous voyez, dans l'église de Dieu. Maintenant, allons voir sa question. Il disait ceci, « Je crois que tous les messages devraient être interprétés en série de 3. » C'est vrai, c'est vrai, voyez maintenant, disons par exemple, que vous avez une réunion et que nous sommes assis ici, et que qu'y aurait-il de bon à le laisser parler en langue, ou lui parler en langue, ou lui, un autre parlant, ou cet autre aussi, montrant certains frères, qu'en est-il? Nous serions si mélangés que nous ne saurions même pas ce que nous faisons, voyez-vous, en série de trois, comme si Olin parlait en langue, et il doit aussi y avoir un interprète. Maintenant, il ne peut y avoir un interprète à moins que vous interprétiez vous-même votre parler en langue. Maintenant que celui qui parle en langue prie aussi pour pouvoir s'interpréter. Il peut interpréter ses propres langues, ce qui est juste aussi légal que l'interprétation des autres. Mais il se doit d'y avoir un interprète avant que le parler en langue commence. Si vous avez un groupe de personnes qui parlent en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, alors priez afin de pouvoir vous-même interpréter ce que vous dites. Maintenant, ne faites pas cela dans le but de vous enorgueillir, car alors vous n'édifiez que vous-même, vous voyez, ne faites pas cela, mais parlez en langue afin d'édifier Dieu, ce qui édifiera l'Église, voyez. Tout cela n'est que pour une grande cause, frère. Ces dons sont pour édifier Dieu, pour édifier l'Église, pour amener les gens à Dieu, pour leur faire savoir que Dieu est avec nous. Il n'est pas un Dieu mort, il est un Dieu vivant, travaillant au milieu de nous, voyez-vous? Et nous devons surveiller cela attentivement, car, monsieur, le démon déteste cela, comme tout, voyez, de voir des dons réels et vrais, car les dons sont faibles, et il peut réellement travailler sur ces dons. Oh, monsieur, il peut imiter chacun d'eux. Maintenant, regardez la différence entre un don de prophétie et un prophète. Il y a juste 1 000 000 entre les deux. Un homme qui a un don de prophétie peut être remarqué par l'Église. Deux ou trois doivent discerner cela et dire cela est la vérité. C'est vrai, mais pas un prophète, voyez-vous. Un prophète a un ministère. Le don de prophétie est un don. Un prophète naît comme cela, avec le « ainsi dit le Seigneur », frère. Toujours et toujours. Il n'y a rien dans cela, vous voyez, c'est un prophète. Mais un don de prophétie, c'est un don, voyez, l'un est un ministère de Dieu, le devoir envers Dieu, l'autre est un don de Dieu, voyez-vous, et c'est là la différence. Maintenant les messages, disons par exemple, voici la manière que ce serait. Maintenant vous direz, comme frère Juni ce soir, il interprète, nous savons qu'il est un interprète, frère Neville est un interprète, vous voyez, il interprète les langues, bien nous savons cela. Maintenant qu'en est-il? Si étant assis ici ce soir, l'Esprit de Dieu descend pour nous parler, miséricorde, et nous avons ceci, attendez, l'Église va être ici, le service va commencer dans quelques minutes, voyez, nous avons une réunion juste avant l'Église. Je mets cela à l'ordre comme nous l'avons ici. Bien, alors la première chose que vous savez, frère Rodolphe se lève et parle en langue. Attendez juste une minute, voyez-vous, Dieu n'y saute, ainsi dit le Seigneur, ceci, ceci et cela, ou quelqu'un ici. Ceux qui prennent les notes l'écrivent là en bas, vous voyez, tout ce qui est dit. Prenons cela rapidement, prenons-le de nouveau exactement ce qu'il a dit. D'accord, si c'est refusé, alors vous êtes mieux de laisser faire, voyez, déchirez-le. Mais si ce n'est pas refusé, c'est accepté par deux personnes, alors c'est écrit ici, ils y signent leur nom, voyez-vous, c'est pour l'Église. Je vous le dis à tous pour votre bien, vous voyez, je ne sais pas s'ils ont fait cela au commencement ou non. Et la première chose que vous savez, Holin se lève brusquement, parle en langue. Maintenant, l'interprète peut répéter le même message, vous voyez. C'est peut-être le même, une certaine chose qui arrive, une prophétie. Voyez, cela se prépare à arriver, ou quelque chose que vous devez faire. Frère Robertson se lève derrière et parle en langue. D'accord, cela peut être toujours le même message, donner la même interprétation, vous voyez, ou ce pourrait être trois messages. Maintenant, Dieu ne présentera pas 50 messages le même soir. Nous savons cela parce que vous ne pourriez pas les recevoir, voyez-vous, ou quelque chose qui oppresse l'Église, comme quelque chose qui se fait, c'est pour l'édification de l'Église, voyez-vous. Alors, je n'en permettrai pas plus que cela, voyez, car il est dit que ce soit en séquence de trois, voyez-vous, seulement une série de trois. Alors je dirais, allez-y et écrivez-les, mettez-les là sur la chair, voyez-vous. Alors demain soir, nous nous rencontrons de nouveau, voyez-vous, et s'il y a quelque chose qui doit arriver, Dieu va le dire dans l'un de ses messages. Voyez-vous ce que je veux dire? Que ce soit par série de trois. Un message peut-il être appelé prophétie s'il ne prédit pas l'avenir? Non! Si c'est une prophétie, elle prophétisera, prédisant quelque chose qui s'accomplira. C'est la vérité. D'accord, maintenant celle-ci est la dernière avant que nous prenions celles qui sont là. Frère Branham, se peut-il que pour quelques-unes de ces questions, vous ne vous sentiez pas guidé à répondre ou à commenter?
Oui.
Ou, mise de côté, je ne serais pas fâché du tout. Quel est le devoir complet d'un diacre selon les Écritures? Bien, je crois que vous avez cela ici. Je sais que c'est un des diacres de notre Église. Aussi, je crois qu'ils ont l'ordre sur cela ici. Nous devrions en faire d'autres copies et les distribuer à chacun de nos diacres, si nous ne l'avons pas fait. Je me demande si nous pourrions avoir une copie de cela, Jean, ou vous, ou frère Léo, quelqu'un, en faire environ 6 ou 8 copies et les donner au diacre. Cela donne les devoirs, scripturairement, ce que le diacre doit faire. Dans le cas où nous aurions une prophétie ou un message en langue qui ne serait pas en ordre, comment devrions-nous corriger cela? Maintenant, c'est un bon cas d'urgence, vous voyez? Voyez-vous? Maintenant, Dieu bénisse le diacre qui a mentionné ceci, parce que c'est une bonne chose. Vous devez manipuler cela avec des gants de caoutchouc. Maintenant, si quelqu'un vient ici dans votre congrégation et donne un message ou une prophétie qui n'est pas dans l'ordre, il n'y a à peu près rien que vous puissiez faire, s'il est dans l'assemblée, voyez-vous. Ils savent qu'ils sont dans le désordre et cela pourrait ruiner le service, voyez-vous. Mais si cela arrive, la meilleure chose à faire pour le diacre, c'est de rester tranquille, voyez-vous. Car le prophète sur l'estrade est celui qui est en poste. Vous êtes sa protection. Vous êtes son officier de police, vous voyez. Vous êtes le gardien du lieu, voyez-vous. Maintenant, si c'est quelqu'un en dehors de la congrégation, la personne n'est pas habituée, vous voyez. Ils ne sont pas habitués. C'est ce que nous essayons de montrer ici. Vous voyez, nous savons quoi faire. Nous savons que nos gens sont habitués. Mais si c'est quelqu'un en dehors de notre propre congrégation, bien, nous ne savons pas combien cette personne, cette pauvre personne est renseignée. Par exemple, Billy, tu te souviens, Costa Mesa, Californie. Chaque fois que je me préparais à faire un appel à l'hôtel, il y avait une femme qui se levait brusquement et courait du haut en bas de l'allée en parlant langue. Elle détruisait cet appel à l'hôtel et je devais simplement m'en aller. Vous pouviez voir l'Esprit de Dieu abaissé, attristé. Rien n'affligera l'Esprit de Dieu si c'est en ordre, voyez-vous? Espace blanc non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Juste avant de commencer, voilà comment elle se préparait, car je la surveillais. Tout ministre fera cela, s'il veut voir quoi que ce soit en désordre. Alors cette femme était là, elle le disait à Billy, et Billy me le disait. Lorsque j'entrais ce soir-là, elle dit, « Papa, tu sais cette femme qui les a démolis, les appelle à l'hôtel deux soirs ?»« Oui. » Il dit, « Elle était assise là, elle a dit, « Gloire à Dieu, Billy, j'ai un autre message ce soir. » »« Viens maintenant, vous voyez, je l'ai surveillée dans l'auditoire. » Il y avait des milliers de gens. C'est quand le Reader's Digest a écrit au sujet de la guérison de Donnie Morton. Vous savez, le miracle de Donnie Morton. Aussi, je surveillais cette femme. Et environ au moment où je commençais à faire mon appel à l'hôtel, maintenant, elle n'était simplement pas bien informée. Il n'y a aucun doute, une brave femme. Mais elle regardait autour d'elle, replaçait sa chevelure. Elle avait les cheveux courts, voyez. Alors, vous voyez, elle était de quelque autre assemblée ou de quelque église qui permettent ces choses. Elle plaçait ses cheveux, elle baissa les mains, releva ses bas. Elle se préparait de cette manière. Et comme je commençais l'appel à l'hôtel, je dis, « Combien de ceux qui sont présents ici aimeraient s'avancer, donner leur cœur au Seigneur Jésus ?» Elle sauta sur ses pieds. Je dis, asseyez-vous. Elle commença. Je dis, asseyez-vous, voyez-vous. Et monsieur, elle fit comme si elle ne m'avait pas entendu. Et je le criais de nouveau. Elle m'entendit cette fois. Car j'ai comme secoué la bâtisse cette fois avec ce gros microphone qui était là. Elle s'est assise. Je dis, comme je disais, combien veulent venir à l'hôtel et donner leur cœur à Dieu. Et je continuais la réunion, vous voyez. Et ce soir-là, quand je démarrais le camion, j'étais entouré d'un groupe de femmes qui caquetaient comme des poules, disant, « Vous avez blasphémé le Saint-Esprit. » Je dis, « Je fais cela. » Je dis, « Comment puis-je blasphémer le Saint-Esprit en suivant la déclaration des Écritures, voyez-vous » Et cette femme dit, « J'avais un message directement de Dieu. » Mais je dis, « Mais vous le donniez au mauvais moment, sœur. » Je dis, « Je ne pouvais pas le dire, madame. » Je dis, « Je crois que ça l'était, voyez-vous. Je vais le dire pour votre bien que... » Je dis, « Je crois que ça l'était. Je crois que vous êtes une brave femme, mais vous étiez en désordre. » Et son pasteur était là. Je savais que c'était son pasteur, voyez. Et je dis, « Il n'y a qu'une chose que je puisse dire. Ou c'était charnel, ou vous avez un pasteur qui vous a mal informé et que vous ne connaissez rien sur les Écritures. » Je dis, « Il devrait venir s'entretenir avec nous sur les Écritures pendant un petit moment. » C'est faux, vous étiez en désordre, vous avez perdu des âmes l'avant-dernier soir, et plusieurs, et hier soir, et vous auriez fait la même chose ce soir. Et cet homme dit, frère Branham, il dit, je vous demande pardon. Je dis, que voulez-vous dire? Il dit, elle avait le droit de donner ce message, vous aviez terminé. Je dis, j'étais sur l'estrade, et l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, je suis encore sur l'estrade. Et il dit, bien. Je dis, j'avais encore le message, je faisais un appel à l'autel, c'était la prospection, j'ai lancé mon filet, je le ramenais alors. Ne jetez pas de fil barbelé ou autre pour faire obstacle, vous voyez? Je dis, je retirais mon filet, et je dis, elle s'interposa dans la venue des âmes. À quoi serait-il bon de prêcher ou quoi que ce soit si vous n'appeliez pas les pécheurs à s'avancer, voyez-vous? Il dit, son message était plus tard que le vôtre, le sien était en dehors de l'estrade, le sien était directement de Dieu. Je dis, si quelqu'un pense qu'il est spirituel ou qu'il est prophète, qu'il reconnaisse que ce que je dis est un commandement du Seigneur, mais s'il l'ignore, qu'il l'ignore, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Citant Paul, comme vous le savez, je dis, non, monsieur, sans vouloir vous offenser, Jésus a dit, la parole de l'homme est un mensonge et la mienne la vérité. Paul a dit, même si un ange du ciel venait vous annoncer autre chose que ce qui est ici, qu'il soit anathème. Je dis, monsieur, vous êtes fermement hors limite. Je dis, quelle sorte d'église avez-vous? Je parie que ce n'est que de la confusion, voyez-vous. Si vous laissez agir les gens de cette manière, quand faites-vous vos appels à l'autel? Elle a un ministère, ils ont tous un ministère, mais il y a le temps pour votre ministère. Vous voyez, cela est aussi donné. Ainsi c'est correct, non? Et maintenant, si cela arrive comme cela dans votre église, par vos frères et sœurs de l'église qui parlent en langue, maintenant le diacre, après le service ou le conseil, devrait se rencontrer et dire, veuillez écouter cette bande pendant quelques minutes, vous voyez. Vous dites, je suis certain que le pasteur veut vous parler. Voudriez-vous venir nous rencontrer dans le bureau pendant un petit moment, voyez-vous, frère, y aller et lui parler réellement gentiment, voyez-vous. Mais maintenant, s'ils deviennent tous en désordre et dérangent votre pasteur, voyez, s'ils dérangent le pasteur, alors c'est à vous, les anciens, d'aller à lui et de dire, juste une minute. Et si le pasteur vous fait signe de les arrêter, c'est qu'il a capté leur esprit. Alors c'est qu'il brise l'esprit de la réunion, vous voyez. Ainsi, si le pasteur arrête et incline la tête, ne dites rien, voyez-vous. Ne dites rien, laissez le pasteur. Mais surveillez votre pasteur. S'il fait un geste vers vous comme ceci, que vous devriez arrêter cela, avancez-vous avec l'amour chrétien et dites, mon frère ou ma sœur, soit l'un ou l'autre, je crois que vous êtes en désordre, car vous dérangez le prophète, vous voyez. Il a le message de Dieu. Lorsqu'il aura terminé son message, nous aurons une conversation sur ceci un peu plus tard. Vous voyez, si cela le dérange. Mais si c'est quelqu'un de l'extérieur et que le pasteur avec respect s'arrête et attend une minute, probablement il continuera juste après, vous voyez. Si vous remarquez 90% du temps comme cela, l'interprétation, c'est toujours la citation de quelques versets de la Bible ou quelque chose comme cela. Ce qui est probablement des deux bouts de la ligne. Vous savez ce que je veux dire par cela. Voyez-vous? D'accord. Voyez-vous? D'accord. Est-ce qu'il est permis à plus d'un d'avoir un message en langue sans interprétation? Non, il devrait venir un par un, voyez-vous? Un parle et alors donne l'interprétation, voyez-vous? Et si un autre parle, alors ce doit être interprété, car si vous ne le faites pas, l'interprète ne saura pas ce qu'il fait, parce qu'il y a deux ou trois messages sur lui en même temps, voyez, et cela le rendra confus. Vous voyez, et alors donner trois messages, mais il faut que chaque message soit interprété. Alors, comme si frère Rodolphe parlait, frère Neville donnait l'interprétation, frère Fred reste tranquille, voyez. Il prend l'interprétation. Premièrement, cela doit être jugé en premier, pour voir si c'est de Dieu ou non. Voyez-vous, maintenant si frère Rodolphe parle, frère Biller parle, frère Neville parle, le pauvre frère qui interprète a trois messages en ligne. Comment saura-t-il quoi faire, voyez-vous? Laissez-le tranquille, donnez le message et restez en paix, attendez. Laissez quelque chose être révélé à celui qui est assis près de lui. Laissez-le en paix, restez tranquillement assis, voyez-vous, et alors laissez venir l'interprétation. Alors lorsque vous le faites, écrivez-le alors, voyez ce que disent ceux qui discernent. Voyez-vous, s'ils disent bien, c'est de Dieu. D'accord, il y a un message, voyez, alors prenez-le en note. Alors attendez une minute. La première chose que vous savez, eh bien l'Esprit vient sur lui, il parlera. Alors l'interprète attend une minute pour voir ce que le Saint-Esprit va dire. Et s'il s'avance avec ce message, vous voyez, et alors il va écrire cela, vous voyez, et que ce soit en série de trois. Frère Branham, nous savons que vous êtes un messager envoyé de Dieu à cet âge de l'Église. Les mêmes signes qui suivirent Jésus, nous voyons qu'ils vous suivent. Et nous comprenons pourquoi quelques-uns qui vous connaissent mieux pensent que vous êtes le Messie. Voudriez-vous nous expliquer la différence entre votre relation avec Dieu et celle de Christ avec Dieu? Bien, je sais, frère, que c'est vrai, voyez. Mais laissez cela pour plus tard, car j'ai quelque chose d'écrit ici sur cela. Vous voyez, quelquefois, c'est mal compris. Je voudrais que vous retourniez, ou vous tourniez à Luc avec moi, le 3e chapitre, le verset 15. Permettez seulement que je vous dise ceci, frère. Vous avez entendu cela, c'est partout. Mais laissez-moi vous dire, voyez, cela doit venir de cette manière. Ça doit venir comme cela. Si ce n'était pas de cette manière, je devrais me repentir de mon message. Écoutez, frère, je vous adjure devant Christ, restez tranquille avec cela de votre côté. Mais si vous étiez spirituel, vous comprendriez, voyez-vous. Ne connaissez-vous pas la première chose qu'il a dite là-bas sur la rivière? Ne vous souvenez-vous pas ce qu'il a dit? Comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message, c'est le message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. C'est ce que l'ange du Seigneur a dit. Maintenant, remarquez, comme Jean-Baptiste, maintenant vous l'avez tous entendu, vous l'avez lu dans les livres, et entendu des gens qui étaient là le dire, et tout le reste, lorsque l'ange lui-même a donné ce message, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu es envoyé avec ce message, tu seras le précurseur de la seconde venue de Christ. Maintenant, le message. Maintenant, si vous remarquez, le petit Willy là a mis mon nom sous cette étoile là-bas. Et c'est la raison pour laquelle je voulais passer, voyez. Maintenant, je vais être aussi honnête que je peux l'être. Je ne crois pas avoir rien à faire avec ce messager, voyez, c'est vrai. Je crois que je suis envoyé pour être une partie de son Église, pour aider à amener ce message jusqu'à l'endroit où il devrait être, lorsque ce précurseur viendra parce qu'il viendra. Mais je crois qu'étant ce que je suis, je crois que j'ai le message ce jour. Je crois que c'est la lumière d'aujourd'hui, et je crois que cela nous montre les temps qui s'en viennent, vous voyez. Je crois que le message qu'il a donné là, le message que tu as, maintenant, si vous remarquez, cette étoile qui se levait là-bas était une... J'ai ces autres tellement bonnes questions, je ne veux pas... Il est passé 10 heures aussi, je sais que vous devez retourner à la maison, voyez-vous. Mais écoutez ceci, laissez-moi vous montrer quelque chose. Me donneriez-vous seulement quelques moments de plus? D'accord. Maintenant, regardez, laissez-moi vous dire quelque chose. Maintenant, frère, gardez ceci entre vous, voyez-vous. Maintenant, gardez ceci entre vous. Je dois vous informer correctement sur cela, car vous êtes mes pasteurs. Je dois faire cela, et vous êtes frères avec moi, travaillant dans ce message, voyez-vous. Maintenant, autant que je suis concerné comme homme, je suis comme vous, même pire. Beaucoup d'entre vous sont arrivés avec des origines chrétiennes et autres. Je suis le moindre parmi les pécheurs, comme il fut dit une fois parmi vous. La plus mauvaise vie, je suppose, qui pouvait être vécue par un incroyant plein de doutes, j'étais. Mais depuis ma plus tendre enfance, je savais qu'il y avait un Dieu, et je savais que quelque chose arriverait dans ma vie. Et c'est au-dessus de toute question, mon frère, voyez-vous. Mais laissez-moi vous dire ceci, qu'un message viendra, et qu'un messager viendra. Je crois que si ce doit être un homme, il sera quelqu'un après moi, voyez-vous. Ce message que je prêche est le vrai message de ce jour, et c'est le dernier message. Vous voyez ce que je fais, frère. Je vous mets tous dans la même position que moi, car vous êtes tous aussi concernés que moi. Vous êtes des messagers de ce même message. Regardez ici, j'ai une illustration. Je crois que je peux mieux vous le démontrer par une illustration. Laissez-moi fermer cette porte partiellement pour un moment, hein. Ceci est Jésus, et cela est Jésus. Bien, je vais mettre ceci ici, Gethsémané, et ceci ici et là. Maintenant, je n'ai même pas dit cela devant l'Église. Maintenant, souvenez-vous, quel genre de lumière, étoile, guida l'homme qui cherchait la sagesse pour nous guider à la lumière parfaite? Maintenant, je vais séparer juste ici une minute et vous dire quelque chose. Arrachons cette chose que Willy a fait là-bas et disons que c'est vrai. Supposons que c'est vrai. Je ne peux dire cela, frère, c'est de la prétention, je ne le ferai pas, même si je le croyais, je ne le dirais pas, voyez-vous. Quelqu'un d'autre l'a dit, ce sont eux. Mais ici, juste comme on me le demandait, quelques-uns, des garçons, s'ils faisaient un genre de témoignage des choses qui sont arrivées, je n'aime pas venir à la chaire et témoigner de quelque chose qui s'est passé dans la réunion. Laissons les gérants et quelqu'un d'autre le faire, je n'aime pas faire cela. Un frère dit, mais ils vinrent à Jean et lui dirent, es-tu le Christ? Note de l'éditeur. Oui, c'est cela, ce à quoi je veux en venir. Es-tu ce prophète? Il le nia, il ne répondit rien. Il dit, je suis celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui crie dans le désert. Il prit sa position lui-même. Un autre frère dit, ils lui demandèrent s'il était ce prophète. Il dit, je ne le suis pas. Oui, ce prophète était celui dont Moïse avait parlé. Voyez, c'est le prophète. Voyez, voyez-vous, mais il savait qui il était, voyez. Mais il a dit, je suis la voix de celui. C'était lui, il a dit ce qu'il était, voyez-vous. Mais il était un, allez-y. Un frère dit, lorsque Christ est venu alors, suivant Jean, ils sont venus à lui et il leur enseigna qu'Élie viendrait avant le Messie. Il dit, si vous pouvez le recevoir. C'était lui, c'est vrai. Et Jean continue à dire, je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis pas digne de délier ses chaussures. Mais qu'en est-il lorsque Jésus a parlé de lui? Il dit, qui êtes-vous allé voir? Oui, êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? Ou qu'êtes-vous allé voir un homme avec de beaux vêtements et des choses luxueuses? Il dit, ils sont dans les palais des rois. Mais êtes-vous allé voir un prophète? Je vous dis que oui, et plus qu'un prophète, il était un messager de l'Alliance. C'est ce qu'il était. Il était plus qu'un prophète. Il dit, il ne fut jamais homme né de femme aussi grand que lui jusqu'à ce jour, voyez-vous. C'est ce qu'il était, voyez. Il était un messager de l'Alliance. Il était celui qui l'introduisit et dit, c'est lui. Tous les autres prophètes parlèrent de lui, mais Jean a dit, c'est lui, voyez-vous. Maintenant, surveillez. L'homme suivit une étoile. Je vais retourner en arrière un petit peu, voyez-vous. L'homme sage suivit une étoile, demandant, « Où est-il ce roi des Juifs qui est né ?» Vous avez entendu le chant, « Nous avons vu son étoile dans l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. » Vous avez entendu cela, elle avait lu dans les Écritures, d'accord. La direction vers l'Est continue toujours, guide-nous vers ta lumière parfaite. Vous voyez, l'étoile les guide vers la lumière parfaite, parce que l'étoile ne faisait que réfléchir la lumière. C'est là que nous avons pris cela l'autre jour, voyez-vous. Combien étaient ici dimanche dernier pour voir cela? Vous voyez, je venais juste de finir de prêcher à ce sujet. La gloire de la Shekinah dans l'étoile, et l'étoile la réfléchit. L'ange du Seigneur se tenait ici sur l'estrade, la réfléchissant là-bas, provenant de la gloire de la Shekinah. Juste exactement la même chose. Là, c'était exactement correct. Regardant ici à la chose véritable, regardant là, et cela étant réfléchi directement à côté, comme cela, vous voyez. Maintenant, remarquez ceci. Cette étoile s'est levée dans l'Est, n'est-ce pas vrai? C'était une grande étoile, d'accord. Et qui était l'étoile terrestre actuelle au temps de la venue de Jésus? Bien, Jean, il était celui qui les a guidés jusqu'à la lumière parfaite, n'est-ce pas vrai? C'était dans l'Est, et à la première parution de Jésus. Et maintenant, il y a beaucoup de petites étoiles qui traversent l'horizon jusqu'à ce que nous arrivions à l'étoile du soir. Et l'étoile du soir brille dans la nuit. L'étoile du matin brille le matin. Et elle, deux étoiles semblables de la même grosseur. Maintenant, mettez deux et deux ensemble et vous y êtes, voyez. Vous y êtes. Ainsi, l'étoile n'est pas le Messie. Elle ne fait que réfléchir le Messie. Maintenant, l'étoile ne réfléchit pas sa propre lumière. L'étoile réfléchit la lumière du soleil, n'est-ce pas vrai? Un frère dit, non. Dans un sens, la lune le fait, les étoiles projettent leur propre lumière. Ce que je veux réellement dire, c'est que la lune réfléchit seulement la lumière. Oui, maintenant si une étoile réfléchit sa lumière, alors sa lumière devra venir de Dieu, car c'est un glacier en quelque sorte, n'est-ce pas? Le frère dit, soleil. Un soleil par lui-même, venant du soleil. Des soleils plus loin que notre soleil. Oui, et on nous dit que ces soleils proviennent du grand soleil. Le soleil a lancé ses missiles et ils sont des missiles qui brûlent comme le soleil. Ainsi, ils sont des petits soleils amateurs pour nous, n'est-ce pas vrai? Lumières amateurs. Quelques-uns le sont, mais la plupart d'entre eux sont plus gros que notre soleil. Je veux dire pour nous, voyez, nous parlons de nous ici, d'accord? Maintenant, s'ils sont des soleils pour nous, des projecteurs de lumière, ils sont une partie du donateur principal, voyez-vous. Le grand soleil nous donne la grande lumière, la lumière parfaite. Les petits soleils ou les petites étoiles que nous pouvons voir dans les corps, elles peuvent être beaucoup plus loin que le soleil qui brille, mais ce qu'elles nous réfléchissent, c'est une lumière plus petite. Mais elles ne donnent qu'un témoignage d'une lumière, n'est-ce pas vrai? Alors le grand soleil se lève, les petits soleils s'éteignent, est-ce vrai? Elles ne sont pas le soleil pour nous, elles sont un réflecteur comme le soleil. Voyez-vous ce que je veux dire? Maintenant, le plus gros parmi eux, le matin, qui annonce la venue du soleil, l'instauration du soleil et la venue du Fils, est l'étoile du matin et l'étoile du soir. N'est-ce pas vrai? Deux des plus grosses étoiles, l'étoile de l'Est et l'étoile de l'Ouest. Maintenant, vous voyez où c'est. Élie était le messager pour l'appel, annonçant la venue de l'étoile de l'Est, ou prédit à l'annonceur de l'étoile de l'Ouest, ou la venue encore du nouveau jour lorsque ce jour sera passé. Maintenant, vous voyez ce que c'est. L'Est, il y aura de la lumière dans, voyez, juste avant que le soleil, le Fils, soit annoncé à la terre, l'étoile du matin témoigne de la venue du soleil, du Fils. N'est-ce pas vrai? Voyez, cela amène l'étoile du matin. Bien, alors l'étoile du matin et l'étoile du soir sont la même sorte d'étoiles. Et il y a de petites étoiles tout partout. Ne voyez-vous pas ce que je veux dire? Les messagers. Bien, alors on devrait le regarder comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, les pierres de jaspe et de sardoine. Voyez ce que je veux dire? Maintenant, la venue de Christ qui vient très bientôt, alors le message qu'Élie devait prêcher dans les derniers jours, s'il y a une répétition de l'histoire, comme l'étoile du matin annonce la venue là, l'étoile du soir annonce la venue d'un nouveau jour, un autre jour. C'est la venue du soleil, alors, qui annonce le départ du soleil que nous avons eu, et la venue d'un nouveau soleil, voyez, un nouvel âge, un temps nouveau qui arrive. Maintenant écoutez alors, si Jean a apporté son message et annoncé la première venue de Christ, et Élie vient dans les derniers jours, le prophète dit, il y aura de la lumière au temps du soir. En d'autres mots, il y aurait une lumière au temps du soir. La lumière du soir, la plus grosse lumière qui soit dans l'étoile du soir, la plus grande lumière que nous ayons, bien alors cela devra annoncer le même message qu'il avait en étant cette autre étoile. Cela annonce le Fils. Parle du Fils. Bien, maintenant nous sommes au temps de la fin. Les lumières du soir sont ici. Cet âge a disparu. Voyez ce que je veux dire? Ce jour a passé et il y aura l'annonce d'un autre jour qui vient. Car vous voyez, si quelqu'un était dans l'ouest et regardait vers cette étoile, elle serait dans l'est. Et alors, vous voyez, nous avons vu son étoile dans l'est. Mais ils étaient actuellement dans l'est, regardant vers l'est, vers cette étoile. Est-ce vrai? L'homme sage, le mage, était là-bas dans l'ouest, plutôt là-bas dans l'est, regardant vers cette étoile de l'ouest. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais c'était une étoile de l'est pour ceux qui étaient dans l'ouest. Vous voyez, comme je dis toujours, le bas, c'est le haut. Comment savez-vous que c'est vrai? Nous nous tenons dans l'éternité, ainsi le pôle sud peut être en haut et le pôle nord en bas. Nous ne savons pas. La position du haut est en bas, voyez-vous? Nous laisserons ceci. Après cela, nous irons dans l'éternité. C'est le salut, annonçant l'avenue d'une éternité, un jour différent, un temps différent, et le tout en même temps. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Nous croyons cela. Nous croyons que l'avenue du Seigneur est tout près. D'accord? Maintenant, si c'est ainsi, alors il doit y avoir une lumière du soir. Et la lumière du soir, selon Malachi 4, était supposée ramener le cœur des enfants vers les pères, retourner au commencement. Mais quand il vint la première fois, il ramena le cœur des pères vers les enfants. Les enfants étaient ceux qu'il avait réunis autour de lui. Il devait amener les cœurs des pères, les anciens pères orthodoxes, à cette lumière qu'il annonçait là. Mais lorsqu'il revient, il va se tourner complètement. Avez-vous remarqué? Avant que le monde soit détruit, le grand et terrible jour du Seigneur est ramener les cœurs des enfants vers les pères. L'étoile du soir, qui était l'étoile du matin en ce temps-là. Amen. J'espère que je l'ai comme il faut, vous voyez, l'étoile du soir qui était l'étoile du matin, parce que c'était la même étoile. Nous sommes dans l'ouest, regardant vers l'est. Ils étaient dans l'est, regardant vers l'ouest. C'est exactement la même étoile. Vous voyez ce que je veux dire? Cela dépend du lieu où vous vous tenez, vous voyez, pour que ce soit ou l'étoile de l'est, ou l'étoile de l'ouest. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Maintenant, cela ramène la foi des pères aux enfants. Dans ce temps, c'est la foi des enfants aux pères. Vous avez fait le tour et revenez de nouveau. Ne voyez-vous pas ce que je veux dire? Voyez-vous ce que je veux dire? C'est toujours la même étoile tout le temps, la même chose, le même message, la même chose qui revient. Cela a fait le tour. Et comment savez-vous dans quelle direction vous allez? Je crois que l'heure vient où ils découvriront que le monde ne fonctionne même pas. Je crois cela de tout mon cœur. Je ne les crois pas qu'ils le prouvent scientifiquement ou quoi que ce soit. Ils ont fait des preuves scientifiques qu'ils ont dû réfuter. Dieu dit que le monde s'est arrêté, plutôt le soleil. Je dis le soleil s'est arrêté au lieu du monde, voyez, le soleil. Actuellement, je ne crois pas que le soleil fait ce qu'ils disent qu'il fait. Je sais que la lune voyage, et je crois que le soleil marche aussi, voyez-vous. Mais quelques-uns parmi eux disent, il regarda l'ignorance de Josué, voyez, et il a arrêté le monde. Je dis, alors vous m'avez dit, si le monde s'arrête jamais, il sera lancé comme une comète à travers l'espace, voyez-vous. Je dis, alors qu'est-ce qui est arrivé alors? Je parlais à M. Tiss ici, l'enseignant de la Bible, à l'école de hautes études. Vous savez qui il était? Mais il me dit ceci, je dis, je crois que la Bible dit que le monde s'arrêta. Je dis, je veux dire le soleil s'arrêta. Josué dit au soleil, arrête-toi, et il demeura là. Il dit, bien, il a simplement arrêté le monde. Il vit l'ignorance de Josué. Je dis, vous faites la même chose par votre intelligence, alors, voyez-vous? Un frère dit, je crois qu'ils peuvent prouver scientifiquement combien de temps le soleil s'est arrêté. Oui, là je l'ai entendu cela aussi, oui ils le disent, j'ai entendu un astrologue il y a quelque temps parler de cela, qu'il pouvait le prouver, et du même coup que quelque chose s'est produit dans l'atmosphère qui leur permet de voir, ou quelque chose est arrivé dans le ciel et cela a ouvert la mer Rouge à ce moment-là et autre chose. Ils ont tout prouvé cela, bien monsieur, je vous le dis, des étoiles de très loin là-bas, ailleurs ont fait quelque chose comme cela à ce moment là-bas. De toute manière, c'est trop profond pour nous. Ainsi maintenant, la raison que ce message devra être regardé de cette manière pour prouver qu'il existe. Maintenant nous savons, frères, que l'homme ne peut être Dieu. L'homme, s'il est un Dieu, chacun de vous est un Dieu. Vous étiez fait pour être un Dieu, mais pas durant votre passage dans cette vie, voyez-vous. Jésus était un homme tout comme nous, mais Dieu était en lui. La plénitude de Dieu était en lui. Nous avons une mesure de l'Esprit. Mais cette lumière étant venue, et si c'est la vraie lumière, c'est pour annoncer le message que Jean-Baptiste annonça, comme il dit qu'il l'a fait sur la rivière là-bas. Et regardez, comment cela pourrait-il être autre chose? Regardez-moi, voyez, même pas une éducation grammaticale, quand il m'a dit les choses qui allaient arriver, aucune d'elles n'a failli, aucune d'entre elles n'a jamais failli. Regardez ce qu'il a fait, regardez, il a même... Et je dis, frère, là-bas, il y a plusieurs années, je ne sais lequel parmi vous est le plus vieux, mais j'ai parlé de ces choses, d'avoir vu cette lumière et sa couleur et tout cela. Maintenant, la photographie montre que c'est la vérité. Toutes ces différentes choses prouvent que c'est la vérité. Est-ce vrai? Bien alors, si c'est vrai, et c'est la lumière, maintenant, comment c'est environ 4 espaces blancs sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur? D'accord, commencez au 14e verset du chapitre 3 de Saint-Luc. Un frère lit Luc 3, 14 à 16. Et des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. D'accord? Qu'est-ce que c'était? Les gens étaient dans une telle attente que le Messie apparaisse. Quand ils virent le ministère avec une grande onction de cet homme venant du désert et faisant sa campagne et retournant dans le désert, beaucoup d'hommes qui étaient ses propres disciples dirent, il est le Messie! Il l'attendait, vous voyez? Alors, si c'est le vrai message de Dieu, précédant la venue de Jean-Baptiste, la même chose, le message d'Élie devra être vu de la même manière, voyez-vous? Ainsi, cela répond à cette question, je pense, exactement, voyez-vous? Cela doit être vu de la même manière, voyez-vous? Un frère demande, est-ce que nous avons la responsabilité de faire quelque chose pour aider ceux qui pourraient prendre part dans un conflit comme celui-là, ou que pourrions-nous faire, note de l'éditeur? Il n'y aurait rien, il n'y a rien que vous puissiez faire. Cela peut-il se développer en un esprit réprouvé? Bien, cela deviendrait un esprit réprouvé s'il en venait à ceci. Si l'homme qui se trouverait dans la condition dont nous parlons témoignerait qu'il est le Messie, alors nous savons qu'il serait un faux Christ, voyez-vous? Vous voyez, aussi longtemps que l'homme lui-même garderait sa place, voyez, il dit, cet homme est vraiment un prophète de Dieu. Il n'y a pas de doute. Il dit, n'es-tu pas ce prophète? Il a dit non, voyez-vous. Il dit, quoi, n'es-tu pas le Messie? Voyez, il croyait qu'il l'était réellement, voyez-vous. Il dit non, voyez-vous. N'es-tu pas, mais qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et alors la Bible dit, les gens étaient dans l'attente. Qui était-ce? Ceux qui l'entendaient, l'écoutaient, ses disciples, ses frères, voyez-vous. Maintenant, ils ne voulaient pas le blesser, ils n'essayaient pas de lui faire mal. Mais vous voyez, ils pensaient dans leur cœur qu'il était le Messie. Bien maintenant, l'histoire doit se répéter à chaque occasion. Nous savons cela. Cela doit se répéter. Comme vous le voyez dans Matthieu 3, cela dit, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Maintenant, cela parlait de Jésus le Fils. Mais suivez la référence. C'était Jacob le Fils aussi, voyez-vous? Voyez-vous? Tout a un sens composé. Ainsi maintenant, si cette chose ne s'était pas présentée, je dirais, elle devrait se présenter plus tard, parce que je sais que ce message est de Dieu, et cela précède la venue de Christ, et c'est l'Esprit et la puissance d'Élie, car c'est pour restaurer les cœurs des enfants. Chaque chose le justifie. Aussi cela est sujet à se manifester de cette manière parmi le vrai peuple qui a absolument cru, et vos frères et vos amis. Maintenant, j'ai un médecin ici en ville. Je peux vous parler d'un docteur, je ne vous dirai pas son nom, un de mes amis, qui met ses bras autour de moi et dit, « Billy, ce serait facile pour moi de te dire, tu es le Messie de Dieu pour les derniers jours, voyez-vous » Il a dit, « Bien, je n'ai jamais vu personne dans le monde qui n'ait jamais eu une chose, et dit les choses et fait les choses que tu fais, Billy. » Cela l'a aidé beaucoup, voyez. Il dit, « Je vais dans ces églises et je vois ces prédicateurs et tout. » Il dit, « Tu es différent des autres, et je sais que tu n'as pas d'éducation, voyez-vous » Et je sais que tu n'es pas un psychologue, car la psychologie ne ferait pas ces choses, voyez-vous? Et j'ai dit, c'est vrai, Doc. Il n'est pas besoin de lui parler, car il n'y connaît rien. Vous ne pourriez même pas faire le premier but avec lui, voyez, car il ne sait pas quoi faire. Mais c'est comme cela, vous voyez. Je connais une femme de couleur qui vit en haut de ma rue. Et elle travaille pour un homme que je connais. Et la femme de cet homme a appelé et elle m'a dit, « Cette femme vous adorerait absolument comme un dieu, parce qu'elle se mourait du cancer, et vous lui avez imposé les mains, et dit qui elle était. » Cette femme pour qui elle travaillait, son mari et le docteur, pas le docteur dont je parlais, un autre docteur, joue au golf et autres ensemble, et il avait abandonné de la soigner, et c'était la servante de son meilleur ami. Et il l'avait abandonnée à la mort, et elle fut littéralement guérie, et le docteur ne pouvait plus en trouver aucune trace du cancer. Et vous voyez, elle dirait, maintenant il ne le voit pas dans la lumière, que je pense qu'ils le disent ou que nous le prenons, voyez-vous. Ils veulent dire qu'ils croient que Dieu est avec nous, en nous, travaillant à travers nous, pas qu'un individu est Dieu, voyez. Maintenant ils savaient que Jean n'était qu'un homme, et Jésus aussi n'était qu'un homme. Jésus n'était qu'un homme, il était né d'une femme, devait mourir, est-ce vrai? Il était un homme, devait manger et boire, et a eu faim, a pleuré, a eu soif, et tout le reste, juste un être humain comme vous et moi nous sommes. Mais l'Esprit de Dieu était en lui dans la plénitude sans mesure. Il était omnipotent en puissance. Quand Élie n'avait qu'une portion de cet esprit peut-être, loin un peu au-dessus de ses frères, mais il n'avait qu'une portion de l'esprit, mais le peuple s'attendait au Messie, et ils virent cette portion supérieure dans leurs frères, ils dirent, oh, ça doit être lui. Mais quand il commença à briller, la petite lumière de Jean s'est éteinte, voyez-vous. Et ces petites lumières vont s'éteindre quand il vient, ce Christ du ciel, grandement loin, venant de l'Est vers l'Ouest, voyez-vous. Mais il ne sera pas sur la terre maintenant. Le Messie ne sera pas sur la terre jusqu'à ce que le millénium commence, voyez-vous. Car l'Église, nous sommes pris tous ensemble pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Il ne vient jamais sur la terre, il prend son épouse en ascension. Il prend une échelle, vous savez, quelle était cette pièce, Léo, où l'homme appuie son échelle contre la maison. Roméo et Juliette, c'est correct. Il met l'échelle et enlève son épouse. Maintenant, il descend l'échelle de Jacob et dit, « Psst, chérie, viens ici, vous voyez, nous allons monter à sa rencontre. » Un frère demande, « Frère Branham, serait-il correct avec cela ?» Ces gens vinrent à Jean-Baptiste, et ils voulaient l'appeler le Messie, et je vous ai entendu dire une fois que les Juifs pensent que le Messie était Dieu. « Que dites-vous ?» Je dis, « Ces gens vinrent à Jean-Baptiste pensant qu'il était le Messie, le Christ, et je vous ai entendu dire une fois que le Messie serait Dieu pour les Juifs. » Oui, monsieur, c'est vrai, le rabbin. Un frère dit, bien Jean les a réprimandés disant qu'il ne l'était pas, que Christ allait venir. C'est vrai, mais n'est-il pas vrai que les disciples appelèrent Jésus Seigneur? Jésus était d'accord avec cela, disant, vous m'appelez Seigneur et aussi je le suis. Oui, dans Jean 13, où il lava, partie inaudible sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Oui, il l'admettrait. Il admit qu'il était le Seigneur, oui. Oui, il l'a admis. Il l'a accepté. Mais comme vous voyez, Jésus étant le Seigneur, lorsqu'on lui demanda s'il l'était, il dit, « Oui, monsieur, je suis votre Seigneur et Maître. Vous m'appelez ainsi et vous dites bien, car je le suis. » Mais il n'y eut jamais personne qui pouvait dire cela. Non, comme si quelqu'un disait que je suis un Dieu. Bien, laissez-moi vous dire, au nom du Seigneur Jésus, que c'est une erreur, voyez-vous. Je suis un pécheur sauvé par la grâce, avec un message de Dieu, voyez-vous. Une église locale devrait-elle, oui ou non, prendre soin des siens, de ses responsabilités locales avant de s'occuper des besoins des étrangers dans d'autres pays? Cependant, après avoir rencontré ces besoins, n'est-il pas scripturaire pour l'église locale d'aider le travail missionnaire autant qu'elle en est capable? Oui, c'est vrai. La charité commence à la maison, vous voyez. Nous prenons soin de nos besoins à nous, car c'est l'église de Dieu. Bien plus votre petite église, l'église de Dieu. Maintenant, si vous ne pouvez même pas payer votre pasteur, vous ne pouvez pas acheter de livres de chant et autres, vous ne devriez rien envoyer ailleurs, voyez-vous. Mais alors, après que votre église est payée et tout le reste, alors aidez cet autre frère qui est dans le besoin là-bas, voyez. Prenez un peu, je crois que si vous faites les paiements de votre église, j'aurai quelque part un petit fonds mis de côté pour une offrande missionnaire, si les gens voulaient donner aux missions, car beaucoup de gens donneront même... S'ils ne donnent pas leurs propres églises et autres. Ainsi, s'ils ne donnent pas aux missions, ces personnes le dépenseront à autre chose. Ainsi, je dis, ayez une petite boîte pour les missions, et c'est comme cela que nous essayons de faire. Luc 1, 17, s'il vous plaît, expliquez la venue de Jean dans l'esprit d'Élie. Un frère demande, est-ce là que les adeptes de la réincarnation prennent leur doctrine? Pardon? Est-ce là que ceux qui croient à la réincarnation débutent leur théorie? C'est probablement cela. Vous voyez, ils croient qu'ils reviennent dans... Oui, il revient dans un autre corps. Oui, vous voyez, il est vrai qu'un esprit ne meurt jamais, c'est vrai. Dieu reprend son homme, mais jamais son esprit. Il dit, si vous avez été bon, vous reviendrez dans quelque gentil personnage. Oui, oui, oui. Si vous avez été méchant, vous pouvez revenir dans un chien. Oui, ils ont, oui, bien maintenant, comme aux Indes, un groupe d'hommes que nous avons rencontrés. S'ils sont en train de nettoyer le plancher, qu'une fourmi ou autre s'y trouve, ils ne l'écraseront pas, par crainte que ce soit de leur parenté ou autre, voyez, ils ne le feraient pas. Mais vous voyez, cela est païen, voyez-vous, c'est païen, c'est vrai. Paul dit de désirer les meilleurs dons et encore, dit-il, je vous montre une manière plus excellente. S'il vous plaît, expliquez ce que veut dire une manière plus excellente. L'amour, 1 Corinthiens 13, voyez. Aspirez, maintenant prenez 1 Corinthiens, le 13e chapitre, et maintenant lisez les 3 ou 4 derniers versets. Un frère lit 1 Corinthiens 13, 11 à 14. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Frère Branham dit, charité, note de l'éditeur. Comment un frère qui prend une place dans l'église sans qu'on lui demande pourrait-il être condamné? Oh, eh bien, souffrez avec lui, je suppose, voyez-vous. Comment un frère pourrait-il être condamné? Il ne devrait pas être condamné, dont la faiblesse est de prendre une place dans l'église sans qu'on le lui demande. Par exemple, s'il veut être un diacre, voyez-vous, et on ne le lui demande pas, mais il veut être un diacre de toute manière, voyez. Bien, si une personne est comme cela, il y a quelque chose, vous savez, une petite faiblesse. De toute manière, j'essaierai de prendre arrangement avec lui dans l'amour. Et naturellement, vous ne voulez jamais faire une chose comme celle-là sans la connaître réellement. Mettez votre meilleur homme sur votre conseil, voyez-vous, comme cela. Frère, ne laissez jamais venir là rien qui n'ait éprouvé. Éprouvez cet homme, premièrement. Un diacre a plus de responsabilités que le pasteur en a, voyez-vous. Dans un service de communion, un homme vient à l'autel pour prier. Frère Branham se tient derrière les éléments de communion car ils vont être distribués. Il dit qu'il ne peut les laisser pour les prier avec l'homme à l'autel. S'il vous plaît, expliquez. J'ai envoyé les associés, voyez, frère Neville. Je me souviens de ce soir-là quand c'est arrivé. Je me dois de rester à cette table de communion, voyez. Regardez ici. Maintenant, je n'ai pas le temps d'entrer dans cela. C'est quelqu'un qui est assis ici qui demande cela naturellement. Voici ce dont il s'agit, frère. Quand vous avez la communion qui représente le corps de Jésus-Christ, cela doit être gardé constamment. Regardez quand Élisée a dit à Géasi, « Prends mon bâton. » Il avait béni ce bâton. Il dit, « Suis ton chemin, et si quelqu'un parle, ne réponds pas. Si quelqu'un te salue, ne le salue pas. Va et pose ce bâton sur le bébé. » Est-ce vrai? Garde ce bâton, voyez-vous? Et c'est ce que je faisais. Maintenant, s'il n'y avait pas eu un pasteur associé là, j'avais fini de prêcher. Je me souviens quand c'est arrivé. Et si frère Neville ne s'était pas tenu là, ou quelqu'un d'autre, pour aider cet homme à l'autel, je venais juste de finir de prêcher. Ainsi, je me tenais à la table de communion. Et pendant qu'il se préparait à prendre la communion, et je commençais déjà à donner la communion, frère Neville se tenait juste à côté, et je pratiquais un ministère à la communion. Qu'en est-il s'il était venu à l'autel, et que frère Neville fût encore dans son sermon et qu'il prêchait? J'aurais été à l'autel avec cet homme, s'il était sorti de l'assemblée ou était venu à l'autel pendant qu'il prêchait. J'aurais vu que mon frère était sous l'onction du Saint-Esprit, il pratiquait son ministère, il était un ministre dans son devoir, un ministre dans l'exercice de son devoir. Et vous ne devriez jamais laisser parler en langue, interrompre un ministre dans la ligne de son devoir. Oui, si le Saint-Esprit parle à quelqu'un et qu'il court à l'autel pour être sauvé, que le pasteur continue son ministère dans la ligne du devoir, qu'un pasteur, un diacre, un associé ou tout autre ministre s'occupe de cette personne très rapidement. Et ne dérangez pas le ministre dans la ligne de son devoir, voyez-vous? Et je me tenais derrière le pupitre, tout à mon devoir, donnant la communion. Et mon associé, frère Neville, se tenait près de moi. Et un homme courut vers l'autel, je dis, « Allez le voir, frère Neville. » Et frère Neville alla vers lui. C'est pour cette raison que je n'y suis pas allé. Maintenant, s'il n'y avait eu aucun associé ou personne pour aller à cet homme, je me serais reculé et j'aurais arrêté la communion et serais allé voir à ce que cette âme soit sauvée, voyez-vous. Étant compris qu'il y avait quelqu'un envoyé, cela m'aurait enlevé de mon service de devoir, voyez, où je servais la communion. Qu'est-ce qu'une personne peut faire comme travail personnel pour une personne qui recherche le Saint-Esprit tout en restant scripturaire? D'accord, ne faites que lui citer la parole, c'est le mieux que vous puissiez faire. La parole a la lumière, dites seulement, frère Jésus l'a promis, souviens-toi, c'est sa promesse. Ne le secouez pas, ne le poussez pas, ne le changez pas de place ou quoi que ce soit, n'essayez surtout pas de le lui donner car vous ne pouvez pas le faire, voyez-vous. Dieu va le lui donner. Ne faites que lui répéter les promesses, voyez-vous. Restez là citant la promesse. Ô Dieu du ciel, je prie pour mon frère, ta promesse est que tu vas lui donner le Saint-Esprit. Alors, si vous essayez de l'encourager, il dira, ô frère, pasteur, frère, qui que ce soit qui est prêt, je veux le Saint-Esprit. Frère, c'est une promesse. Dieu a fait la promesse. Crois-tu qu'il l'a promis? Maintenant, n'aie pas de doute. Si tu crois la promesse, le Saint-Esprit va venir en toi à n'importe quel moment maintenant. Attends-toi à lui. Abandonne tout ce que tu as à lui et dis, Seigneur, je me tiens sur ta promesse. Maintenant, continue à citer. Dites maintenant, tu le dis à Dieu, maintenant t'es-tu repenti? Oui. Maintenant dis, Seigneur, tu as dit que si je me repentais, que tu me pardonnerais. Tu as dit que si je me repens, je suis baptisé dans le nom de Jésus-Christ, pour la rémission de mes péchés, je recevrai le Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, j'ai fait cela, Seigneur, je l'ai fait, j'attends, Seigneur, tu l'as promis. Vous voyez, c'est la manière, ne faites que l'encourager, gardez-le directement sur la parole. Si cela doit venir, cela viendra alors. Un prédicateur ou un autre chrétien fait-il bien s'il ne croit pas à la sécurité éternelle? Maintenant, j'imagine le faire. Voyons si vous allez lire cela de la même manière que moi. Lisez-le. Un frère lit la question. Un prédicateur ou un autre chrétien fait-il bien s'il ne croit pas à la sécurité éternelle? S'il ne connaissait rien au sujet de la sécurité éternelle, mais s'il le savait, et savait que c'était la vérité, et alors ne le prêchait pas, il doit avoir honte de lui-même. C'est vrai, comme tout autre chrétien. Maintenant, le chrétien, je dirais au chrétien qui ne comprend pas cela aussi bien, un frère demande, cela n'est pas une doctrine ouverte, n'est-ce pas, frère Branham, pour être prêché aux gens qui n'en ont jamais. Non, maintenant c'est ce à quoi je venais, oui, voyez-vous. Maintenant, vous souvenez-vous de ce que j'ai dit dimanche dernier? Si vous êtes un prédicateur, trouvez-vous une chair. Si vous ne l'êtes pas, vivez votre sermon, voyez. C'est la meilleure manière de faire cela, vivez votre sermon. Si vous êtes un prédicateur, ayez une chair, voyez, et mettez-vous à prêcher. Si vous ne l'êtes pas, vivez votre sermon, que votre vie soit votre chair, voyez-vous. Je crois que cela prend soin de beaucoup de choses, ne pensez-vous pas, voyez-vous. Vous, frères, faites cela dans vos églises. Souvenez-vous, le laïc en vous essaye, parmi vous essaye d'expliquer, de faire des choses. C'est mieux que vous leur recommandiez de ne pas le faire. Et si quelqu'un veut savoir quelque chose, qu'il vienne à ceux qui sont mandatés pour le faire, voyez. Dites bien maintenant, comme si quelqu'un disait, « Et vous là-bas, votre église, vous croyez dans la sécurité éternelle. Maintenant, vous faites mieux de surveiller. Vous mettrez dans un embarras plus grand que jamais, voyez, et le rendrez pire qu'il n'a jamais été. Mais je vous dirais ceci, si vous venez à notre pasteur, voyez, vous lui en parlez, voyez, c'est vrai, je sais que notre pasteur croit cela. » Je le crois aussi, mais je ne suis pas capable de l'expliquer. Je ne suis pas un prédicateur. Je ne fais que le croire. C'est tout ce que je sais. Je le crois parce que je l'ai entendu l'expliquer à partir de la Bible. C'est sans l'ombre d'un doute pour moi, voyez-vous. Mais ce qui est mieux, laissez les laïcs en parler au pasteur. Et vous, pasteur, assurez-vous que le pasteur sait comment y répondre aussi. Ainsi, étudiez cela très bien, car très souvent, ils vont vous y attacher, voyez. Un frère dit, « Frère Branham, excusez-moi, si je peux, mais je connais mon appel et je me suis assuré de mon élection. Vous venez juste de dire que si vous êtes un prédicateur, vous devriez avoir une chair. » »« Oui, monsieur, c'est vrai. Je ne suis pas un prédicateur, je suis un évangéliste. » »« Oui, monsieur, mais toutes les chairs sont à moi. C'est vrai. Mais présentement, je travaille un travail physique. Ce n'est pas un dur travail, mais je travaille, je n'ai pas de chair. Et je crois que cette période de travail dans laquelle je me trouve est la volonté du Seigneur. Il m'a dit de le faire par la parole et le témoignage de l'Esprit. Et je crois que plus tard, cette chair sera ouverte. Certain, c'est vrai. Est-ce vrai? C'est vrai, frère. Frère, maintenant, si vous retourniez en arrière et preniez les livres de l'ancienne Église, vous découvririez que j'ai été pasteur de cette Église pendant 17 ans. J'ai prêché chaque jour, prêché et travaillé chaque jour, voyez-vous. Un frère dit, si vous travailliez, c'est un bon signe que vous étiez appelé. Oui, Paul l'a fait, n'est-ce pas? Paul a fait des tentes. J'avais tendance à me décourager, car comme vous l'avez dit, chaque prédicateur devrait avoir une chair. J'ai tendance à me décourager, mais je sais que Dieu m'a appelé à avoir un travail pour une saison. Certainement, Paul a été faire des tentes, n'est-ce pas? Il a travaillé de ses propres mains afin de ne pas avoir à... J'en suis rendu à cela. Voyez-vous, c'est vrai, voyez-vous, John Wesley a dit, « Le monde est ma paroisse. » Ainsi, votre chair est toujours ouverte, frère. Les évangélistes en vont dans le monde entier, n'est-ce pas vrai? Allez par tout le monde. Ainsi, votre chair, c'est le monde entier. Oui, monsieur. Est-ce qu'il est dit qu'un diacre ou un administrateur doit avoir la doctrine de son Église? Oui, c'est vrai. C'est selon la loi pour eux d'ajouter ou d'enlever dans leur enseignement en regard de leur propre opinion, de leur propre révélation? Non, monsieur, non. Un diacre ou un administrateur devrait être en parfaite harmonie avec la doctrine de son Église. Et il devrait rester parfaitement avec l'interprétation des Écritures dans leur Église, car s'ils ne le font pas, ils combattent l'essence même. Ils se blessent eux-mêmes, voyez-vous? Vous combattez... C'est dans d'autres mots comme s'il disait « J'aime ma famille » et leur donnerait du poison. Voyez, c'est la même chose. Voyez, vous ne pouvez faire cela, vous. Un administrateur ou un diacre, en acceptant son office ou tout autre officier d'une église qui représente le corps d'une certaine église, voyez, cela représente une église. C'est pour cette raison que je suis sorti de l'église baptiste, voyez, pour la première fois. J'avais été là juste un peu de temps. Ils me demandèrent d'ordonner une certaine femme comme prédicateur. Bien, je ne pouvais pas à ce moment y rester. Je dis, je refuse de le faire. Et le pasteur me réprimanda. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes un ancien. Je dis, docteur Davis, avec tout le respect que je dois à la foi baptiste et tout ce que je fus ordonné à faire, je ne savais pas que c'était dans la doctrine baptiste pour ordonner des femmes. C'était une chose dont je n'avais pas été informé. Et il dit, c'est la doctrine de cette église. Je dis, monsieur, Pourrais-je être excusé pour ce soir, ou voudriez-vous me répondre sur certaines questions, voyez-vous? Il dit, je répondrai à vos questions. Il dit, c'est votre devoir d'être là. Je dis, cela l'est, monsieur, c'est vrai. Je suis supposé participer à tout ce que cette église fait. Je suis un poste de devoir, un des anciens locaux. Et je dis, pourriez-vous m'expliquer pourquoi dans 1 Corinthiens 14 ou 15, où Paul dit que vos femmes gardent le silence dans les églises et ne leur est pas permis de parler? Et il me dit, quoi, certainement? Il dit, si je peux répondre à cela. Il dit, voyez ce que c'était. Il dit, Paul a dit, toutes les femmes en ce temps-là étaient assises dans les coins, se manifestaient comme dans beaucoup d'autres occasions en certains temps. Il dit, ne les laissez pas faire cela, voyez-vous. Et je dis, alors expliquez-moi 2 Timothée, où Paul a dit aussi la même chose, le même apôtre. Il a dit, je ne permets pas qu'une femme enseigne ou prenne l'autorité, voyez, mais qu'elle soit soumise. Car Adam a été formé le premier, ensuite Ève, et Adam ne fut pas séduit, mais la femme fut séduite, elle est séduite. Maintenant, je ne dis pas qu'elle veut faire quoi que ce soit de mal, mais elle est actuellement séduite dans cela. Elle ne devrait pas enseigner. Il me dit, est-ce là votre opinion personnelle? Je dis, c'est l'opinion des Écritures dans ma manière de le voir, c'est ce que la Bible dit. Il dit, jeune homme, vous pourriez avoir votre licence révoquée pour cela. Je dis, je vais leur sauver ce trouble. Je vais la donner, docteur Davis. Je dis pas que je ne vous considère pas. Et il ne voulut pas le faire. Il laissa aller la chose comme cela. Il a dit qu'il allait tenir une discussion ouverte sur cela avec moi. Je dis, d'accord, à n'importe quel moment. Mais il ne le fit pas. Ainsi, alors, un peu plus tard, alors le Seigneur me parla. Et l'ange du Seigneur vint. Alors il a ri de cela, voyez. Et alors je lui ai simplement dit, j'ai dit, bien, docteur Davis, c'est mieux que je me débarrasse de cela immédiatement, voyez. Je dis, cela va devenir un fardeau. Je viens juste d'être ordonné depuis peu, de toute manière. Aussi, ce sera un fardeau pour moi. Ainsi, je devrais abandonner cela immédiatement. Aussi, puisque je ne peux rester dans l'église baptiste et enseigner la doctrine baptiste et accepter la croyance baptiste. Si je le faisais seulement parce que c'est une église, alors je suis faux, voyez. Je cacherai quelque chose, et si je suis honnête avec moi-même, j'irai vers les baptistes, mon pasteur ou qui que ce soit qui peut me l'expliquer, et leur demander une parole de vie. Et s'il peut correctement me montrer dans les Écritures où cela est bien indiqué dans les Écritures, pour satisfaire mon sentiment, alors je vais le dire de la même manière qu'ils le disent et je serai un baptiste. C'est pour cette raison que je suis un indépendant. C'est pour cette raison que je n'appartiens pas à l'organisation, parce que je ne crois pas dans les organisations. Et je crois que l'organisation, c'est anti-scripturaire. Par conséquent, je ne pourrais appartenir à une organisation et me sentir justifié de le faire, voyez-vous. Donc, je ne prends pas de gens pour en faire des membres, et ainsi de suite comme cela, car je ne crois pas que nous sommes nés pour devenir des membres. Nous sommes nés dans l'Église du Dieu vivant, voyez-vous. Nous n'enlevons pas le nom des gens des livres et ne les excommunions pas, ou autres, car je crois que cela n'est pas de notre devoir de le faire. Je crois que c'est Dieu qui peut faire l'excommunication, voyez-vous. Mais je crois que l'Église, s'il y avait un frère qui faisait quelque chose de faux, par exemple, s'il prenait frère Neville, ou frère Junior, ou quelques frères, un des diacres, ou des administrateurs, ou autres, faisant quelque chose de faux, je crois que la chose à faire pour l'Église serait de se réunir et de prier pour ce frère. S'il ne se repent pas, que Dieu aille le voir. Allez voir le frère pour le réconcilier. S'il ne le fait pas alors c'est le temps pour l'Église entière, voyez. Ceci, c'est pour les pasteurs, aux anciens, n'importe qui d'autre de le faire. Je ne crois pas que le conseil des diacres a le droit de chasser qui que ce soit hors de l'Église. Aucun conseil des administrateurs, aucun pasteur n'a le droit de le faire. Je crois que si quelqu'un doit être exclu de la fraternité, ce serait pour cause de vie immorale, ou quelque chose comme cela, qu'il ne soit pas une personne digne, comme un homme qui viendrait ici pour salir nos filles et insulter nos femmes, ou des choses comme cela, et toujours déclarer qu'il est un des nôtres, voyez-vous. S'il est d'ailleurs et vient, alors nous devons faire quelque chose à ce sujet. Mais lorsque nous avons affaire à une personne comme cela, un immoral, essayant de faire du charme à nos femmes, insulter nos filles, ou vous savez, quelque chose d'autre comme cela, ou faire quelque chose d'immoral en leur présence, ou prendre nos jeunes garçons et les pervertir ou autre, ces choses devraient être considérées, alors cette personne devrait être excommuniée de la fraternité et ne pas être acceptée à la communion, car nous ne sommes pas supposés faire cela, nous ne le sommes pas. Si quelqu'un mange indignement, il est coupable envers le corps et le sang du Seigneur sur cette personne. Mais je crois, comme quelqu'un a déjà dit, bien, maintenant il est ceci et cela, priez pour lui. Je n'oublierai jamais à Stockholm, en Suède, frère Lévi Petrus, un grand homme de Dieu. Nous étions assis à la table, juste quelques heures avant de revenir en Amérique. Nous avions eu de grandes réunions là-bas. Et Gordon Lindsay a dit, « Qui est le surveillant de ce grand corps ?» Hausse là-bas les assemblées de Dieu par des centaines de mille, vous voyez. Il dit, « Qui est le surveillant ?» Et Lévi Petrus, qui est le genre gentilhomme, il a dit, « Jésus. » Il dit, « Qui est votre prêtre ?» Il dit, « Jésus. » Il dit, « Je sais que c'est vrai. » Il dit, « Nous croyons la même chose dans nos assemblées de Dieu. » Il dit, « C'est vrai. » Mais il dit, « Dites si par exemple un frère sort du chemin. » Il dit, « Qui a le pouvoir de le mettre dehors ?» Il dit, « Nous ne le mettons pas dehors. » Il dit, « Nous ne le mettons pas dehors. » Bien, il dit, « Que faites-vous ?» Il dit, « Nous prions pour lui. » J'ai pensé que c'était si doux. Cela avait l'air chrétien. Il prie pour lui. Il dit, « Bien, alors qu'en est-il si certains frères sont d'accord ?» Il dit, « Eh, quelques autres ne veulent plus fraterniser avec lui. Amenez-le de là comme si c'était un pasteur qui commençait à devenir un homme à femme, vous savez ce que je veux dire, et autre chose comme cela, et quelques pasteurs ne voudraient plus l'avoir dans leurs églises. Que feriez-vous tous ? Le chasseriez-vous de votre organisation ?»« Non, dit-il, nous le laisserions tranquille et prierions pour lui. » Il dit, « Nous n'en avons pas perdu un encore, ils reviennent toujours, de quelque manière. » Il dit, « Bien, il dit, maintenant qu'en est-il, si quelques-uns disent qu'ils l'acceptent et d'autres le refusent, maintenant qu'est-ce que vous faites ?» Il dit, « Bien, ceux qui le veulent le prennent, ceux qui ne le veulent pas n'ont pas à le prendre. Ainsi, je crois que c'est une bonne manière de faire, ne pensez-vous pas, frère ? Et de cette manière, nous sommes, frère. Maintenant, frère, j'espère que ces choses vous ont un peu démontré en regard d'une réponse ou autre, ce dont notre assemblée ici ce soir, cela nous a apporté quelque chose. Je me prépare à partir pour quelque temps allant pour des réunions. J'implore humblement pour vos prières. Quelques-unes de mes réponses peut-être, plusieurs d'entre elles, peut-être aucune n'était correcte. Mais c'était le mieux que je pouvais vous donner dans ma manière de penser, voyez, en essayant de vous expliquer. Peut-être que ces dernières spécialement sont venues enfin, je n'ai pas eu le temps de les étudier, et je ne l'ai pas fait, ce que je veux dire, ce sont les Écritures que nous voyons ici chaque fois, jour après jour dans l'Église. J'avais pensé que cela aurait pu être quelque grande chose fastidieuse qui aurait pu nous faire pénétrer dans quelque chose de grand, mais c'est plus quelque chose comme les questions d'Église. Je suis heureux de voir une tenue semblable, il n'y a pas de désordre, pas de mécontentement, pas de confusion, pas de questions contestées qu'on aurait dit « c'est faux, nous ne l'acceptons pas ». Ce n'étaient que des frères qui voulaient savoir quelque chose pour renforcer leur position, c'est tout. Renforcer, attacher l'armure un peu plus serrée, prendre une autre coche. J'espère que nous pourrons nous rencontrer plusieurs autres fois comme ceci pour remonter nos armures. Et souvenez-vous, frères, mon armure a besoin d'être relevée aussi. Ainsi, priez Dieu pour moi. Que Dieu m'aide et resserre mon armure un peu plus, que je ne me ramollisse pas trop sur les choses, et que la vie que je vis et les choses que je fais, que je les fasse avec plus d'esprit d'humilité, plus anxieux de le faire, et que Dieu me donne le cœur pour le faire plus qu'auparavant. Je prie la même chose pour vous tous. Dieu vous bénisse. Je vous ai gardé ici très longtemps, et il est déjà 11h05. Et maintenant, frère Neville, j'ai trouvé... Ce n'est que 900 quelques milles pour aller là. Je ne partirai pas avant lundi matin. Je veux être ici dimanche pour l'école du dimanche. Je viendrai comme invité pour vous écouter prêcher. Vous voyez, dimanche, voyez-vous. Frère Neville, voici la raison, frère. Je vous aime. Vous avez toujours été si gentil en m'offrant la chair, juste comme si j'étais un ancien seigneur pour vous. Mais je ne me suis jamais senti comme cela, frère Neville. J'ai senti que nous sommes frères. Frère Ruddle et frère Juni, oh, vous tous les frères et tous ceux qui sont ici, nous sommes des frères ensemble, vous voyez? Mais je suis un peu enroué maintenant, et j'ai 6 semaines de combat constant, voyez? Et je veux commencer, si je le peux, après cette réunion ce soir, cela me donnera vendredi et samedi et dimanche pour me reposer, avant de commencer les réunions là-bas. Et frère Juni, aussitôt que je reviendrai en arrivant, je dois venir vous voir de nouveau, je veux venir. J'ai passé par votre petite église hier, je crois. Ma femme a dit, je crois que c'est là-bas, près de la voie ferrée, près de Glenland Park. J'aimerais venir et parler à ces gens de Sellersburg. C'est beau. Frère Ruddle, votre cœur soit béni. J'aimerais venir aussi. Vous avez un groupe de gens bien. Vous êtes resté assis là, écoutant, comme si vous aviez été un ancien qui accepte. Frère Biller, là-bas, est un de nos frères évangélistes. J'espère que je pourrai être à une de vos réunions quelque part, frère. Je peux influencer, avoir quelque chose à dire, quelque part pour vous aider. J'ai toujours un bon mot pour vous, pour chacun, vous et frère Stryker ici et les évangélistes. Frère Collins ici, lequel sera, je crois, un jour, un ministre à plein temps au travail. Des hommes qui sont tous galants, de vrais hommes de foi. Que Dieu soit avec vous tous, vous les diacres, les administrateurs et les frères. Le frère ici, je ne me rappelle pas son nom, vous êtes... Frère Colwell dit, frère Colwell. Colwell, vous êtes un ministre. Un ministre. Je suis un ministre, j'appartiens à l'Église de Dieu. Je ne pouvais pas prêcher le plein évangile et demeurer avec eux. Je ne pouvais prêcher le baptême au nom du Seigneur Jésus et demeurer avec eux. J'avais la licence du plus haut ministère qu'ils permettent, mais je la leur ai redonnée. Depuis que je vous ai entendu prêcher ces grands messages, je leur ai redonné, je suis sorti de l'organisation. Maintenant, je veux être l'un des vôtres. Merci, frère. Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos fraternités. Et nos diplômes sont d'en haut. Notre vie fait notre identité, voyez. Ce sont nos lettres de créance. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne croyez pas en moi, voyez-vous, c'est vrai. C'est notre identité. Comme Howard Cuddle avait l'habitude de dire, nous n'avons aucune loi si ce n'est l'amour, pas de livre, si ce n'est la Bible et pas de credo si ce n'est Christ. C'est vrai. Pas de loi, mais l'amour, pas de credo, mais Christ, pas de livre, mais la Bible. Et nous sommes, frère Colwell, heureux de vous avoir. Vous venez d'une grande organisation, l'église Anderson de Dieu, je suppose. Frère Colwell dit, celle de Cleveland, ou l'église de Cleveland, l'église pentecôtiste de Dieu. Frère Rook, là-bas, il est devenu un pasteur maintenant, ou un évangéliste, je crois. N'est-ce pas vrai? Ou êtes-vous pasteur? Frère Rook dit, seulement évangéliste, note de l'éditeur. Évangéliste, je voudrais commenter ici, frère Rook. J'ai entendu parler d'une grande œuvre que vous faites pour le Seigneur. J'ai entendu dire que vous êtes allé à Indianapolis, où y alliez, et aviez gagné des âmes à Christ. Que Dieu vous accompagne, frère Rook. Je suis certainement heureux de vous voir. Je vous ai vu ici, sur un gros tracteur, vous vous promeniez, fertilisant votre cour. Bien, je vous reverrai dans votre service pour le Seigneur. Je suis très heureux qu'il vous ait appelé au ministère. Mettez-le toujours devant vous, frère. Que Dieu vous bénisse. Ne faites aucun compromis ou quoi que ce soit, mais faites-le avec l'esprit le plus doux que vous pouvez. Que votre message soit toujours assaisonné de la douceur du Saint-Esprit. Et frère Stryker, un frère dit, nous désirons les prières de chacun de vous. Nous essayons de démarrer une église là-bas à North Vernon. Note de l'éditeur. Oh, j'espère que vous réussirez. Nous prierons pour vous. Ça va très bien jusqu'à maintenant. C'est vrai. Billy, quand vas-tu commencer comme pasteur? Le docteur Gaud et le docteur Mercier ici, comme nous nous appelons l'un l'autre, et frère Gaud est rendu au point où il mérite tellement le titre. Il peut maintenant charger ses cartouches, oui. Et frère Léo, je crois que nous pouvons simplement le laisser aller comme cela, sans en parler et lui garder son titre de docteur. Bien, docteur Branham ici, simplement, gardez-la très bien soignée et que la lumière brille réellement bien. Et je vais vous dire ceci, quand vous aurez une réunion spéciale, je parlerai au conseil et voir si nous ne pourrions pas vous donner un petit extra sur cela. Frère Branham rit, note de l'éditeur. Pour un travail spécial, lorsque vous devez tellement balayer et transporter des choses à l'intérieur et à l'extérieur, cela vous rendra heureux. Le docteur Wood, je l'appelle docteur, je suppose que vous vous demandez pourquoi. Je ne me trompe pas sur son nom. Il fait une boucherie du bois en le mettant en pièces, vous savez. Le Seigneur va produire un bel arbre et il le coupera en fera une jolie maison. Je n'en ai jamais vu de pareil encore. Ainsi, je dois l'appeler docteur. Frère Taylor, vous avez toujours été fidèle à la porte pour donner un siège à l'arrivant. Je pense à vous comme ceci. J'aimerais mieux être un paillasson dans la maison du Seigneur qu'un habitant de la tente des méchants. C'est vrai, certainement. Frère Hickerson, vous venez de débuter dans la voie et vous montez. J'admire votre sincérité et tout ce que vous faites pour le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse à jamais et fasse de vous un véritable diacre, frère, ce que je crois que vous êtes, votre maison en soumission et toutes les choses que vous êtes. Frère Fred, vous n'avez pas été avec nous très longtemps, venant du Canada. Nous ne pensons plus que vous êtes encore un Canadien. Nous sentons que vous êtes un pèlerin et un étranger parmi nous comme administrateur. Vous et frère Wood Et vous qui servez votre office très bien avec frère Robertson et les autres, frère Egan, il n'est pas ici ce soir, et frère Robertson, vous avez été un réel aide pour moi, frère Robertson, ainsi que tous les autres dans ce cas de taxe qui fut l'objet d'une investigation.